Dans le tempo, c'est le retour du podcast des passionnés de musique. Épisode 45, on y va. Comment vas-tu, Daz?
Eh bien, ça va très bien, Salman. Ravi de te retrouver.
Cette fois, ça fait vraiment 15 jours qu'on s'est pas vu.
Oui, et du coup, j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu.
Mais on s'est manqué.
Ouais. Franchement, ouais. Mais pour de vrai, hein. Mais... je suis très content de revenir à la bouclette et tout.
Ça. Et bah, moi aussi. Ça me fait plaisir.
Ouais.
Daz, tu sais, j'ai essayé d'instaurer un peu sur les derniers épisodes.
Ouais.
De rappeler pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ce qu'on fait ici. Est-ce que tu pourrais le faire, toi? C'est quoi, DLT?
Mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
DLT dans le tempo, bien sûr, c'est le podcast des gens qui vivent de la musique, qui parlent de la musique, qui font de la musique, qui ouais. aiment la musique.
Ouais.
C'est le podcast musical
de référence.
De référence.
Le plus grand podcast du monde.
Oui, alors aussi. Oui, aussi. Le plus long également.
Le plus
c'est
long.
Ça qui est bien grâce à ces intros qui durent 2 minutes.
Non, pas du tout.
Non, mais voilà, oui, c'est un podcast où on parle musique avec des passionnés, et qu'ils soient journalistes, distributeurs,
artistes aussi.
Artistes, tourneurs, j'aimerais bien.
Alors, figure-toi que j'ai lancé.
Ouais.
Une invitation à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment. Mais on va essayer de faire ça, évidemment.
Ouais, ça serait chouette.
Bah, moi, j'aime bien essayer de découvrir tous les métiers liés à la musique. C'est tellement riche, tellement varié. Et puis des artistes aussi, évidemment.
Ouais.
Mais on va y arriver, Daz.
Ouais, bah, j'y crois.
Mais t'as raison, le monde de la musique live, c'est un truc qu'on a assez peu abordé encore. On va essayer de le faire.
Ça serait chouette.
Mais aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui.
Daz, on ne parle pas de musique live.
Non. Encore que.
C'est vrai. Oui. Il y a des trucs qui se font d'ailleurs, mais on va en parler. On est sur un thème absolument passionnant,
ouais.
absolument vaste, riche. On pourra pas tout traiter aujourd'hui, Daz, mais on va essayer quand même de faire un petit panorama. La musique de film, Daz.
Ah, la musique de film, j'adore.
Et pour ça, pour en discuter, on reçoit deux invités. Les mecs sont calés, je te préviens.
Ouais, des références, des sommités.
Oui, absolument. Nous sommes avec Rafik Djoumi. Ça va, Rafik?
Bonjour.
Bonjour.
J'étais spectateur, je m'attendais pas à être pris à partie.
Et c'est comme ça que ça se passe. Surpris, à tout moment, tu peux être surpris.
Non, mais le film était bien jusque-là. Vous cassez le quatrième mur, là.
Merci en tout cas d'être là, Rafik. On est aussi avec Olivier Desbrosses. Salut Olivier.
Bonjour.
Ça va?
Ah, ça va bien.
Bah, écoute.
Alors, bien. Clairement, nous, on aime la musique, donc on est venu en parler.
Vous êtes au bon endroit.
Mais alors Rafik et Olivier, mais que font-ils, Salman?
Oh, je vais les présenter.
Oui.
Sache déjà que le cinéma, c'est leur vie, et que la musique de film en particulier, c'est une grande passion pour eux.
D'accord.
C'est, je sais pas si ça va toujours de pair, d'ailleurs, c'est un truc dont on pourra discuter. Est-ce qu'on peut aimer la musique de film sans forcément aimer le cinéma? Je sais pas. En tout cas, vous, c'est clair que vous aimez les deux. Et vous l'avez démontré à travers vos carrières. Je vais commencer par Rafik, quand même, parler un petit peu de toi rapidement. Journaliste culturel, spécialisé dans le cinéma. Ça fait longtemps que tu es actif en tant que chroniqueur, en tant que critique. Tu es une figure quand même du milieu médiatique cinéma, notamment parce que ça t'a toujours tenu à cœur de mettre en avant la culture populaire dans le cinéma.
Oui, en fait, je suis critique de films effectivement à la base, mais c'est vrai que je me suis un peu distingué en écrivant des textes qui se voulaient réfléchis sur des films sur lesquels généralement on réfléchit pas. Donc je me suis, voilà, c'est souvent des blockbusters, des choses comme ça. Donc ce qui m'a fait connaître effectivement, c'est des trucs genre Le Seigneur des Anneaux, les Matrix, enfin tout ce cinéma là. Voilà, que j'ai suivi de très près et pardon. Voilà, je pars faire ma bio, mais à une époque, j'étais même connu comme Monsieur Seigneur des Anneaux, parce que j'avais écrit pendant 3 ans avant la sortie du premier film.
Ah oui,
voilà, ouais. J'étais vraiment là le jour 1 du tournage.
C'était à l'époque de Mad Movies, suivi vraiment tout le
j'avais tout, suivi tout le processus et tout ça, et j'étais complètement fou de ce projet, et personne comprenait dans le milieu, du moins, pourquoi j'avais focalisé sur cet obscur truc néo-zélandais.
T'avais eu le nez fin.
Ah oui. Sur ce coup-là, je l'avoue que j'avais
eu. Celui-là, on est en quelle année, à
98, 19. Le film est sorti en 2001, oui.
Ouais, d'accord.
Donc ça m'a un petit peu porté. Et puis ensuite, comme dans le magazine où je bossais, on utilisait très souvent le mot geek, qui était peu employé en dehors des milieux informatiques. Je me suis retrouvé associé à ce qu'on appelait donc la communauté geek française comme étant une des figures de cette communauté. Mmh. Et donc il y a eu un documentaire sur Canal qui s'appelait Suck My Geek, qui à l'époque en 2007, je crois, avait pas mal marché.
C'est l'époque où on faisait des jeux de mots sexuels.
Oui,
voilà.
C'est pas ouf aujourd'hui.
Mais à l'époque, ça passait.
Et ça m'a mené à devenir plus ou moins un représentant de cette communauté-là, ce qui plus tard va me mener à faire une émission pour Arte qui s'appelait Beats
bien sûr.
BITS, sur les mutations de la culture geek.
De toute façon, on a évoqué Mad Movies, donc tu es passé par ce magazine historique. Aujourd'hui, tu bosses avec Arrêt sur Image, plusieurs émissions. On te retrouve aussi chez Capture Mag, que tu as cofondé d'ailleurs. Tu le disais, Beats avec Arte, tu étais rédacteur en chef de cette émission qui a marqué, émission un peu culte hein, sur Internet.
Oui, on peut encore voir pas mal d'épisodes sur YouTube. Oui, tout à fait. Je suis assez content de ce qu'on a fait. C'était épuisant, mais c'était chouette.
Et puis, tu as écrit des bouquins sur le cinéma. Tu interviens régulièrement dans des conférences, mais surtout Rafik.
La musique de film.
Tu co-animes avec Olivier, donc qui est avec nous, et David Oga aussi, qu'on salue, un podcast dédié à la musique de film et qui s'appelle Total Tracks. On va en parler, mais je présente aussi Olivier quand même. Olivier, donc toi aussi, tu es membre de l'équipe de Total Tracks. Comme Rafik, d'ailleurs, tu as fait des études de cinéma à l'origine. Tu t'es ensuite orienté vers le journalisme. Toi aussi, tu es passé par Mad Movies. Tu as fondé le Média Underscore, qui lui, justement, est un webzine vraiment dédié à la musique de film.
Voilà, qui existe toujours. Hein. Ça fait 15 ans. Ça passe vite.
Belle aventure.
Bravo.
Ouais, il faut tenir en plus hein, sur un webzine. C'est le courage.
Ouais, ouais, non, clairement, il faut un peu d'acharnement quand même pour rester aussi longtemps, surtout que le monde a évolué, que le média est peut-être plus tout à fait adapté à la période qu'on vit aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé pour Total Tracks, parce que le podcast, par contre, lui, c'est un peu le fer de lance aujourd'hui de ce type de communication.
C'est génial le podcast, on peut parler d'un compositeur en 5 épisodes de 3 heures, quoi. Ce que vous faites dans Total Tracks, c'est ça.
Au minimum.
Au minimum. Et oui, d'ailleurs, je précise, je ne savais pas ça. J'ai découvert que tu étais aussi membre, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais de l'International Film Music Critics Association.
Oui, c'est toujours valable.
Qui est une association donc internationale qui rassemble des journalistes passionnés par la musique de film, une association professionnelle. Et vous remettez chaque année des prix à des compositeurs, vous célébrez des compositeurs chaque année.
Tout à fait, tout à fait. Bon, avec beaucoup de débats.
Avec beaucoup de débats, j'imagine. Oula, ça doit durer des heures et des heures. Bon, calé un peu les mecs.
Ouais, ça va, super.
Pour l'instant, sur le CV.
Ouais, ouais, bah, ça va très bien même. Il va falloir qu'on réussisse à step up de notre côté, hein, parce que.
Ah, mais nous, de toute façon, nous, on est là pour lancer. Après, on recueille.
Oui, c'est vrai.
Spectateur, Olivier.
Juste un truc que j'ajoute parce que ça fait partie de mon activité aujourd'hui et que c'est assez chronophage.
Ouais.
C'est une station de web radio.
Oui.
Qui s'appelle La Grande Évasion, qui est spécialisée en musique de film.
Je suis fan.
C'est bizarre, ils me le disent tous les jours.
J'ai rien à voir avec. Je bosse pas du tout dessus, mais par contre, je l'écoute et j'essaie de prendre du recul en me disant mais si c'était pas mon ami, qu'est-ce que j'en penserais. Je suis vraiment, vraiment fan de lagrandeévasion.fr. C'est vraiment la radio.
Est-ce qu'on peut redire le site?
Lagrandeévasion.fr.
Très bien, voilà. Merci.
Donc tout attaché, lagrandeévasion.fr. Ouais. Et c'est vraiment 24/24 une sélection de musique de film. Il y a de tout. C'est affolant, tu passes d'un truc japonais, américain, français, espagnol, des années 30 aux années d'aujourd'hui, un truc qui vient de sortir la semaine dernière, du super obscur au classique indémodable. Et régulièrement, je suis surpris quand je la laisse tourner, de me dire, putain, c'est vachement bien ce truc, qu'est-ce que c'est et tout. Et je note et tout. Alors que je ne veux pas me la péter, mais je connais la musique de
Vico. Des choses grâce à
régulièrement, ouais. Il y a des pépites sur sa radio, elle est sublime.
Et donc si Rafik n'était pas mon ami, je l'aurais embauché pour faire un programme d'évasion parce qu'il le fait mieux que moi.
Et d'ailleurs, tu nous disais avant l'émission que c'est diffusé d'ailleurs dans les cinémas Pathé Gaumont, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est la radio des cinémas Pathé Gaumont, qui d'ailleurs s'appelle maintenant uniquement Pathé, je crois. Ouais. Et c'est ce qu'on entend dans les halls et dans les salles avant les films.
Lagrandeévasion.fr, ouais. C'est ça Rafik?
Je crois que c'est ça.
Il me semble que c'est ça. Le point .fr est important.
Le point .fr est important, effectivement. Bon, comme je vous le disais les gars en début, en intro, évidemment c'est tellement vaste comme sujet qu'on va pas pouvoir tout faire. De toute façon, on poursuivra dans DLT ce sujet avec d'autres invités. Moi j'aimerais bien qu'on reçoive des compositeurs, mais vraiment, parce qu'on a reçu des gens qui font de la musique de film aussi. On a reçu Parawan par exemple, qui a fait aussi des musiques de film. Mais là, l'idée, ce serait surtout d'essayer de dresser une forme de panorama. Une vision globale de l'histoire de la musique de film. Est-ce qu'il y a des grands mouvements? Quelles évolutions on constate? Qu'en est-il aujourd'hui? J'aimerais bien aussi qu'on discute un petit peu de la place, que ce soit en termes de budget, en termes de considération, etc. De la musique au sein d'une industrie puissante comme le cinéma. Est-ce que c'est un peu relégué au second plan? Est-ce que parfois on a des moyens, etc. Essayons de discuter tout ça, si ça vous va.
Bon, parfait.
C'est pas large du tout, c'est ça qui est.
C'est pas large du tout. On a 2 heures devant nous.
Allons-y,
on va essayer de faire ça bien. Et ce que je me disais, c'est pour commencer, essayons une première partie en se demandant si la musique est vraiment partie intégrante du cinéma. Est-ce que dès les origines c'est là? Est-ce qu'on peut envisager le cinéma sans musique? Est-ce que ça se fait d'ailleurs parfois? Je sais pas. Est-ce que, en gros, cinéma début fin 19e.
Il y avait déjà de la musique.
Il y avait déjà de la musique.
Il y a toujours eu de la musique.
Racontez-nous.
Mais elle n'était pas faite pour les films.
Ok.
En fait, la première raison d'utiliser une musique sur un film, dans les dernières années du 19e siècle, c'était pour couvrir le bruit du projecteur.
Ok, d'accord.
Donc il y avait un pianiste, en général, qui venait, qui improvisait,
oui, c'est vrai que c'était des
qui avait un bagage classique et qui faisait des choses. Et plus on avançait avec les années, et plus les pianistes ou les instrumentistes, parfois il y avait même des petits groupes de musiciens dans les grandes salles, les projections un peu prestigieuses, ça commençait un petit peu à être adapté à ce qu'il y avait. Parce que comme il le faisait à chaque projection du film, il commençait à connaître le film. Mmh. Et donc il commençait à adapter un peu les morceaux qu'il choisissait.
Oui, c'était joué live pendant le film.
C'était joué live, donc les premières fois c'était de la pure impro. Mmh.
Donc c'était pas synchronisé avec les images et pas forcément non plus de fonction narrative en fait.
Ah, vraiment. Ça l'a eu assez vite en fait.
Mais
parce
ça
l'est
devenu.
Quand la bourgeoisie s'est lassée très vite du cinématographe, ça, après c'est passé dans les fêtes foraines pour un public plus populaire et qui venait là pour essentiellement pour s'amuser. Mmh. Et du coup, on a commencé à voir se développer des pianos mécaniques avec des effets sonores que tu pouvais mettre. Je sais plus comment s'appelle ce type de piano où t'as des trompettes, des klaxons, des machins, etc. Okay. Et c'est là, on arrive un peu à l'époque du burlesque dans les années 10 avec les Max Linder, Buster Keaton, Chaplin et compagnie. Et là, les pianistes, en fait, carrément faisaient des pouettes-pouettes. Quand le mec sautait, ça...
Okay.
Voilà. Donc, ils essayaient un peu
de
suivre.
Vraiment ce qui
voilà.
se passe.
Et à côté de ça, les productions, certaines productions prestigieuses, par exemple, en France, on avait eu l'assassinat du duc de Guise, qui était une grosse production.
Camille Saint-Saëns.
Avec la musique de Camille Saint-Saëns. Voilà,
c'est la première musique originale composée avec le film en tête. Elle est vraiment faite pour le film.
Et là, on fait appel à un compositeur déjà immense.
C'est ça.
Okay. Et pour s'exercer au cinéma.
Voilà, c'était avec une optique de vraiment de featuring, de dire regardez notre film, il est sonorisé par un gars connu.
Est-ce que c'était un argument presque marketing
qui bien sûr. Ouais. De même qu'on faisait appel à Sarah Bernhardt pour jouer un rôle qu'elle avait déjà rendu célèbre sur scène ou ce genre de choses. Ouais. Mais c'était là pour le coup le cinéma qui cherche à se créer une identité culturelle qu'il n'a pas encore.
Ouais. Ouais, à essayer d'attirer du monde en fait. Ouais.
Mais c'est vrai que voilà donc cette idée que tout d'un coup l'association image musique fonctionnait aussi bien là. Oui, il a fallu peut-être une vingtaine d'années pour que ça commence à devenir presque une évidence.
Est-ce qu'on peut dire qu'intrinsèquement, le cinéma, c'est des images et une bande sonore?
C'est difficile de les dissocier, mais la bande sonore, ça n'est pas que la musique.
Absolument, c'est pour ça que j'utilise ce terme.
Donc avant même que le film soit parlant, il y avait déjà, donc les films avaient pris du volume en termes d'ambition, en termes de budget, en termes de durée, et il y a certains films des années 20 qui avaient des partitions déjà monumentales en fait, et donc oui, c'était déjà inscrit dans l'ADN du cinéma avant même qu'il ait une voix. La musique était la voix avant qu'on entende celle des comédiens. Donc c'était normal qu'elle fasse la transition, et quand on est passé au parlant, on commence immédiatement avoir de la musique faite pour les films.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, dans ses origines, le cinéma est associé au théâtre. Et d'ailleurs, les films sont filmés comme des pièces de théâtre, hein, avec les quatre murs, vraiment, comme si on était à la troisième rangée, quoi. Quand le cinéma commence à découvrir son identité, il découvre qu'on peut couper dans les images, on peut passer d'une image à l'autre, etc. Et on commence à jouer sur la temporalité aussi. Et en fait, on réalise au fur et à mesure que la musique et le cinéma ont finalement beaucoup plus à voir que le cinéma et le théâtre, parce que ce sont deux arts qui fonctionnent sur le rythme, sur le tempo, sur ce genre de choses-là. Donc il y a un mariage de fait en fait.
Il y a un exemple que je trouve très marquant pour illustrer le fait que la musique est présente dès les origines. C'est celui de William Dixon, qui est considéré, si je dis pas de bêtises, comme l'un des premiers réalisateurs, un des premiers acteurs de l'histoire du cinéma. On est à la fin du 19e, et qui en 1894 joue du violon, qu'il interprète lui-même déjà au cinéma. Quoi. Donc la musique est là en réalité. Je trouve ça assez impressionnant.
Oui, on a Méliès qui fait l'homme orchestre, où en fait il se multiplie sur scène, il joue un instrument, puis un deuxième, puis un troisième, puis à bout d'un moment, t'as une dizaine de Méliès qui sont en train de faire un orchestre.
C'est les effets spéciaux en plus.
Bon courage pour le pianiste qui doit mettre ça en musique en live, sans avoir vu le film avant.
Est-ce que derrière la musique prend une place de plus en plus importante? Est-ce qu'il y a des gens qui se professionnalisent dans ce domaine spécifiquement?
En fait, la deuxième grosse vague, c'est l'arrivée du parlant. Et quel est le premier film qu'on reconnaît comme étant un film parlant? C'est Le Chanteur de Jazz, donc un film, encore une fois, sur la musique. Forcément, dès l'instant où on a amené le son au cinéma, la première idée, ça a été on va enfin pouvoir entendre les gens chanter. Sauf que dans ces premières années, l'idée, c'est que s'il y a de la musique... dans le film, elle est intradiégétique, ça veut dire que c'est le mec qui est à l'écran, qui est en train de jouer ou qui est en train d'écouter de la musique. L'idée qu'il puisse y avoir une musique d'accompagnement par-dessus, ça c'est encore très 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 flou.
Et pourtant, c'est ce qui se fait maintenant principalement. Mmh. C'est vrai que
c'est clair,
sont les œuvres avec une musique diégétique.
Oui, mais parce qu'il faut habituer le public et que le public a vite pris le pli, mais c'est exactement la même chose que le montage. Ouais. Le chant contre chant, c'était pas quelque chose de naturel. Mmh. Et le premier à l'avoir fait, le public ne comprenait pas ce qui se passait, qu'on voyait un côté,
puis l'autre
en réponse. C'était pas pour eux naturel. C'est un langage qui est développé. Et l'usage de la musique au cinéma, c'est pareil. Il faut habituer le public. Mais à partir du moment où c'est fait, ça devient tout à fait naturel. Et ça a été fait assez rapidement puisque un des tout premiers scores, parce qu'on parle de score. C'est un terme anglais, mais c'est ce qu'on utilise pour identifier toute musique composée pour le film. Oui, mais bande originale, ça peut être aussi des chansons qui viennent d'albums préexistants. Le score, c'est vraiment un truc qui est fait essentiellement pour le film.
Okay.
Et un des premiers scores vraiment marquants et vraiment massifs dans le film, c'est en 1933 pour un film qui s'appelle King Kong.
Okay.
Que je pense tout le monde l'a pas vu, mais je pense que tout le monde connaît la notion de King Kong.
Bien sûr. Ouais, vite fait, j'imagine que c'est le dragon géant là.
C'est ça, presque.
Donc c'est un moment marquant, la musique de King Kong.
Pour quelle raison?
Parce que justement c'est une musique intradiégétique et elle est composée presque comme une forme d'opéra avec une ouverture qui t'annonce les différents thèmes musicaux et en fait ces thèmes sont associés à des personnages ou à des situations et Max Steiner qui a une formation très européenne en fait il va vraiment instituer ce que j'appelle moi abusivement l'école austro-hongroise, on va dire à Hollywood, c'est-à-dire en fait utiliser toutes ces techniques musicales que l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne ont développées au début du siècle pour la scène, quoi. Notamment la notion du leitmotiv de Wagner. Et il y a cette idée qu'en fait, voilà, un personnage comme King Kong, par exemple, il a son thème, et son thème va se mélanger à un autre thème que celui de la jeune femme Anne. Et ils peuvent se mêler l'un à l'autre, se détacher, revenir et tout ça. Et aussi plein de techniques qui permettent de passer très rapidement d'un ton, mélancolique à de l'action, avec un début de suspense. Et c'est forcément l'opéra qui sert de marche à suivre quoi dans cette façon de raconter, et c'est pas un hasard que ce soit un film fantastique qui ait permis ça, parce que c'était risqué au niveau du public de tenter une expérience. Est-ce que le public va accepter d'être porté comme ça par la musique pendant une heure et demie? Je pense que sur un film dramatique ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. Sur King Kong c'est évident. Vraiment, le film sort en 33, les gens se posent aucune question, tout est à sa place, et encore aujourd'hui, on le voit comme ça, quoi.
Oui, parce que, à partir du moment où la suspension d'incrédulité fonctionne pour ce qu'on nous montre à l'image, la musique, ça vient avec.
Ouais.
Donc c'est assez naturel. Donc oui, effectivement, c'était un bon choix de projet. Et ce qui est marrant, c'est que, parce qu'on parle, on va parler forcément beaucoup d'Hollywood, parce que c'est un peu toujours Hollywood qui donne le ton. Il y a des musiques partout dans le monde, il y a des trucs extraordinaires partout, il y a des choses magnifiques en France, mais globalement, on commence toujours un petit peu avant à Los Angeles. Et donc, tous les premiers compositeurs qui ont commencé à travailler à Hollywood, ce sont des gens qui ont été importés, qui viennent d'Europe.
On peut donner les noms.
C'est des Allemands, des Viennois, des Polonais.
On a Max Steiner pour King Kong. Max Steiner, il va surtout faire tous les grands mélodrames Bette Davis et compagnie, quoi. On a Heinrich Wolfgang Korngold, qui est une des, à l'époque, une gloire, une grande gloire de l'Europe. Mais sauf qu'il est, en fait, sont en train de fuir l'Allemagne nazie, ses compositeurs, donc se réfugient à Hollywood. Et Korngold, il va faire vraiment tous les aventures de Robin des Bois, L'Aigle des Mers, tous les films de KPDP. Donc c'est vraiment le style de la musique d'aventure à la Korngold va pratiquement pas changer pendant 70 ans.
Oui, et d'ailleurs c'est le seul qui va ensuite retourner à une carrière classique. Les autres vont rester dans le cinéma.
On a Franz Waxman. Franz Waxman, ça va être la fiancée de Frankenstein. Donc toute cette école justement du suspense, de l'angoisse, il va faire beaucoup de films aussi, des films noirs, les thrillers et tout ça.
Dans les thrillers, on a aussi Miklos Rozsa, qui va faire beaucoup de films noirs des années 50 avant de devenir la voix de tous les péplums des années fin 50 et début 60, et qui a fait entre autres Ben Hur.
Et ils vont vraiment dominer ces Européens sur des compositeurs américains qui vont presque avoir du mal à se faire une place à Hollywood, quoi. Alors, il y en aura très vite. Hein,
voilà, il y en a encore deux.
Alfred Newman, Bernard Herrmann, tous ces mecs-là.
Voilà, et Tiomkin.
Ouais, et Tiomkin, c'est un Russe.
C'est un russe, tout à fait. Oui, il est un peu plus à l'aise que les autres, mais bon.
Et il va faire du western, donc tout est normal.
On a évoqué King Kong, et vous êtes venu avec quelques morceaux, justement. Vous aviez prévu le titre principal donc du King Kong, pardon, de 1933. On s'écoute un extrait.
Mm-hmm. Allez.
Allez.
Donc ça, c'est vraiment pour l'arrivée du singe.
C'est l'ouverture du film qui annonce déjà en fait les différents thèmes qui vont être utilisés à l'image.
Et est-ce que, avant de passer à la deuxième partie et de parler, ce qu'on a déjà commencé d'une certaine manière à faire, des grands mouvements, des grands acteurs, des grandes époques peut-être aussi, je sais pas si on peut faire ça de manière chronologique par exemple.
On peut faire ça rapidement du coup, parce c'est un peu riche et bien sûr, un peu difficile à résumer. Ouais.
Mais juste avant tout ça, oui, tu veux dire quelque chose?
Ouais, là, c'était juste pour dire qu'il y avait eu une tentative d'aller complètement à l'inverse de ce qu'on vient d'entendre chez les soviétiques, au début des années 30 et dans les années 40, mais qui n'a pas fait école, parce que les soviétiques, ils étaient vachement dans le montage expérimental, le contrepoint, le symbolisme, leur cinéma avait vocation à propager l'idéal révolutionnaire, donc ils ont beaucoup réfléchi à comment impacter le public à ce niveau-là. Et musicalement, ils n'étaient pas du tout dans cet accompagnement. Au contraire, la musique commentée ou mettée à distance, ou Alexandre Nevsky d'Eisenstein, qui est composé par Prokofiev, par exemple. C'est une musique presque cérébrale dans le film. Elle fonctionne un peu à un niveau narratif, mais elle fonctionne surtout de façon symbolique, du coup on l'entend, alors que chez les Américains
ça accompagne
tu fais plus gaffe en fait, t'es accompagné dans le mouvement, ce qui pour les soviétiques était vu comme de la manipulation du public en fait,
des opérations psychologiques.
Ce qu'on observe déjà là dès les années 30, on a aussi évoqué encore avant Camille Saint-Saëns, c'est une prédominance quand même au niveau esthétique de ce qu'on pourrait qualifier de musique classique. Est-ce que c'est
orchestral en tout cas, ouais.
Oui, mais même en l'occurrence par exemple Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur de musique classique. Est-ce que c'est vraiment la voix qui est suivie dès le début, c'est l'influence principale et c'est même voire l'unique au début proposition esthétique dans la musique de film?
C'est celle qui s'impose le plus parce que effectivement on reste au cinéma dans l'idée de la continuation du théâtre du 19e, des grosses productions théâtrales. Il y a un côté quand même, on en met plein la vue, les gens payent pour voir ces spectacles et donc ils veulent avoir l'impression d'être comme ils étaient au théâtre auparavant. Donc il y a quand même et l'orchestre symphonique il donne ce côté dans ta face quoi.
De toute façon c'est lié aussi au fait que dans ces années-là on consommait pas la musique à la maison à la cool comme on le fait aujourd'hui.
C'est clair que c'était assez différent en termes de consommation.
Tu allais écouter de la musique
et en plus de ça chaque grand studio avait son orchestre à demeure.
Ouais.
Ils étaient pas embauchés pour faire la musique d'un film, ils étaient embauchés tout le temps, ils étaient salariés en fait, donc il fallait les faire jouer, autant s'en servir puisqu'ils étaient là. Du coup, oui, essentiellement la musique était presque tout le temps symphonique.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu piocher dans la musique folklorique, la musique du quotidien entre guillemets. Alors, aussi potentiellement.
Il y en a aussi. On a par exemple toutes les comédies musicales des années 30 qui se passent à Broadway. C'est du pur style Broadway, mais encore une fois. Intradiégétique. Donc l'idée d'une musique qui accompagne l'action, elle est effectivement à cette époque-là beaucoup plus associée à la tradition symphonique, tout simplement parce que c'est en référence à l'opéra. Toutes les techniques de l'opéra sont des techniques justement pour faire avancer une intrigue, des émotions et tout ça. Donc pourquoi se priver de...
Oui, parce qu'en plus, on parlait des musiques qui accompagnaient justement les films un peu thriller, suspense, etc. C'est vrai qu'en fait... n'importe quelle scène de cinéma qui se veut inquiétante, si t'as pas la musique qui va avec, ça ne marche pas. En fait.
Ça c'est vrai. Tout comme d'ailleurs, c'est super gimmick, le térémine dans les films d'extraterrestres, etc. Bon, on l'associe tout de suite ça. Pour l'image, à l'illu. Enfin,
c'est des ovnis quoi.
Ouais.
Oui, c'est arrivé d'ailleurs assez vite après l'invention du térémine, ça. Mais la base reste toujours l'orchestre. Mais quelque part, on va voir que l'orchestre reste toujours le fondement de toutes les musiques de films ou de l'essentiel des musiques de films, même encore aujourd'hui d'une manière un peu différente. Okay. Mais on y reviendra après.
Mais on va avoir l'arrivée d'une musique un peu plus folk plus tardivement. Il y a un truc paradoxal, c'est que par exemple le jazz, qui est une pure musique américaine, va avoir du mal à s'imposer dans le cinéma américain autrement, encore une fois, que de façon intradiégétique. C'est-à-dire, le chanteur de jazz, on a du jazz d'emblée qui est chanté à l'image. Mais l'idée d'avoir une partition de jazz qui soit une partition d'underscoring, donc
extradiégétique, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur du film. Voilà.
Ouais. Et qui n'est pas conscientisé par les gens à l'intérieur du film.
Il faut attendre 1946, hein, c'est ça, Un tramway nommé Désir.
Ah, c'est 1951.
Ah, c'est encore plus tard, 1951, ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est Un tramway nommé Désir, avec une musique d'Alex North. Comme le film se passe en Nouvelle-Orléans, donc il y a l'idée quand même de mettre une ambiance typique de la Nouvelle-Orléans, et là Alex North nous fait une partition symphonique mais très marquée par les rythmiques jazz, qui fonctionne parfaitement
et qui n'a l'air de rien aujourd'hui, mais qui était une véritable révolution à l'époque.
On va s'écouter un extrait, parce que vous avez aussi amené un extrait donc pour un tramway nommé Désir. Passons donc à cette deuxième partie. Alors, on a compris un peu d'où on part, entre guillemets, d'une certaine manière, et ensuite plusieurs écoles vont naître d'une certaine manière. Alors il y a l'âge d'or d'Hollywood, on les a évoqués, les Waxman, les Tomkin, etc. Et puis ensuite ça s'ouvre. J'ai l'impression, en tout cas j'ai ce sentiment de l'extérieur, ça s'ouvre. Et notamment vous évoquez les années 50. Est-ce que d'une certaine manière il commence à y avoir des compositeurs qui s'orientent vers les musiques populaires? On pourrait intégrer le jazz là-dedans, pourquoi pas? Est-ce qu'il commence à y avoir des scissions? Est-ce qu'il y a plusieurs écoles dès les années 50? Ça se passe à peu près comme ça? Ou c'est les mêmes mecs qui faisaient de la musique classique qui commencent à dire bon là juste pour illustrer ça je vais faire du jazz?
Il y avait, je pense, au niveau d'Hollywood, une forme de snobisme vis-à-vis de la production culturelle populaire américaine. Par exemple, un truc que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est que le western, pendant longtemps, c'était des musiques typiquement d'Europe, voire d'Europe de l'Est. Et il faut attendre, pareil, les grands espaces en, je sais plus quelle année, 55, je crois, un truc comme ça, pour vraiment entendre une musique qui aurait pu être entendue par des cowboys, en fait.
Donc harmonica, banjo,
mais les harmonies. On avait Copland qui avait vraiment fait une tentative de musique classique qui puisse illustrer les grands paysages américains, mais c'était une musique classique.
Si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont eu une musique de western dans les salles de concert avant qu'elle soit ensuite traduite un peu sur disons de la même façon au cinéma. Ça a été adapté et après ça c'est devenu une influence assez marquante, mais ça a mis du temps.
Et je pense que parce que c'était trop américain pour les patrons de studios, ils disaient ouais mais ça fait pas chic, ça fait un peu plouc. Ouais. Et le jazz et l'americana, c'est finalement il a fallu du temps pour que le cinéma les accepte.
Et pourtant on en a pas amené, mais c'est pas plouc du tout comme musique. Tu voulais mettre un extrait.
Oui, on met un extrait quand même de Un tramway nommé Désir, 1951. Alex North, vous disiez.
Alex North. Ouais. Allez.
Ça pose une ambiance bien, ça.
La Marlon Brando, il transpire. Vraiment.
Est-ce que vous voulez nous en parler d'ailleurs un petit peu de cette BO de... Est-ce que c'est vrai, c'est une rupture, comme vous le disiez?
En fait, vu avec un regard d'aujourd'hui, ça a l'air un peu daté, comme ce qu'on a écouté avant qui était King Kong, mais le langage est différent, il est en train d'évoluer et d'intégrer d'autres styles musicaux que la musique globalement classique européenne. Et ça va être la première fois, ça va être avec le jazz, mais on va ensuite faire la même chose avec tout un tas d'autres idiomes, de world music, de tout un tas de choses comme ça, et ça va devenir de plus en plus fréquent et de plus en plus naturel.
Et Alex North, il vient, lui, de cette tradition plus jazz, ou c'est un truc qu'il adapte pour les besoins du film, enfin qu'il apprend?
C'est un compositeur classique de formation, mais comme tous les compositeurs, très intéressé par tout ce qui se passe et assez fasciné justement par ces musiques du terroir entre guillemets. Quoi. mais non, il y en avait eu avant, mais je pense à Alfred Newman par exemple qui avait fait un film précédemment qui était Street Scene, qui est un film très particulier qui se passe entièrement devant un immeuble à New York, un grand film de King Vidor, et en fait c'est un style très guerre. Déjà, mais parce que c'était New York. Encore une fois, il faut justifier par le lieu et tout ça. Et comme Alfred Newman avait bossé avec Gershwin juste auparavant, tout, c'est pas des. Même si c'est des gens qui ont consacré leur vie à la musique de film, c'est aussi des gars qui sont passés par Broadway, qui sont passés par les grandes écoles, qui ont été formés avec d'autres gars qui sont des compositeurs qui resteront dans la musique classique, etc. Mmh. Donc tout ça se mélange et. Et ils écoutent tout ce qui se fait autour d'eux, quoi. Donc s'il y a un musicien dans la rue ou je sais pas moi, ils vont aller se déguinguander au Cotton Club. Enfin, il va y avoir des tas d'autres sonorités qui vont forcément intégrer.
Et du coup, ça, c'était une volonté, notamment par exemple pour Un Tramway Nommé Désir. Est-ce que c'est une volonté des studios aussi de dire on va proposer autre chose, ou est-ce que c'est vraiment un truc artistique où les mecs se sont dit nous on va le faire comme ça?
C'est jamais une volonté des studios de.
Ouais. Les studios, c'est toujours
de faire bouger ce qui est établi.
Ouais. D'accord.
Par contre, les réalisateurs, oui, d'autant qu'il y a un certain nombre qui étaient déjà amateurs de jazz, les compositeurs évidemment essayent aussi, et puis ça va, dès qu'il y en a un qui arrive à faire un truc, il y en a d'autres qui suivent et ouais. qui embrayent, qui sont plus jeunes, qui ont eux fait du jazz, appris l'écriture du jazz, et qui vont comme Elmer Bernstein par exemple dans les années 60, mm-hmm. qui va faire énormément de jazz au cinéma, parce qu'une fois qu'on a franchi le pas, on peut continuer et on peut aller un peu plus loin et faire quelque chose d'un peu plus.
C'est le succès qui est déterminant. Un Tramway Nommé Désir, ça marche, donc du coup les studios n'ont plus peur d'instituer du jazz en
même temps. C'est marrant quand même que ça veut dire que les studios, les execs, etc., ils ont toujours cette image, même au tout début, des grands argentiers, mais qui finalement connaissent pas grand chose à l'art en tant que tel et sont juste là pour.
C'est des gens qui ont les premiers grands patrons de studios hollywoodiens, c'est des mecs qui ont débuté littéralement sur les routes en Europe. C'est souvent des juifs qui venaient d'Europe centrale et qui ont une formation de comment on appelle ça,
pas de troubadour.
Ouais,
musicien itinérant
de show business européen, enfin de musique. Voilà, je cherche vous, excuse-moi. pour eux, c'est le cinéma, c'est du musical. Donc, ce qu'il faut donner au public, c'est des beaux costumes, des belles filles, de la lumière, du rire, etc. Et pour la musique, ils sont restés sur leurs anciens réflexes. Donc, effectivement, il faut que les choses bougent au niveau des artistes, qu'on leur impose parfois des trucs comme dans le cas d'Un Tramway Nommé Désir, pour leur dire, ça aussi, ça peut marcher. Et quand le film, en l'occurrence, cartonne,
ça devient un nouveau standard. Après,
tout le monde se décoince, évidemment. Ouais.
Olivier, parce que la musique, là, on en parle comme si c'était presque une entité à prendre à part, mais elle est quand même liée à un projet cinématographique, à des images, etc. Est-ce que le fait aussi que, on parle des années 50, on va arriver vers les années 60, il y a un bouleversement à Hollywood qui s'opère, c'est la fin de l'âge d'or, le nouvel Hollywood qui va arriver ensuite. Est-ce que ça explique aussi le fait qu'on prenne un peu plus de, si ce n'est de risques, en tout cas qu'on ose d'autres options musicales? C'est lié aussi au fait que la nature des films change?
Oui, évidemment. Évidemment, et ça va même se multiplier dans les années 60 et 70, où là on va avoir tout un panel de styles musicaux dans lesquels choisir, et de films qui sont faits différemment de ce qui était fait dans le, entre guillemets, le carcan hollywoodien traditionnel. Donc oui, évidemment qu'il y a un effet forcément sur la musique, alors que les films eux-mêmes évoluent et que la façon de les faire évolue aussi, ça évolue aussi en Europe. Donc,
ça
va multiplier les options.
Est-ce que tu as des exemples? Donc là, Alex North 1950. Derrière, est-ce qu'il y a d'autres jalons, d'autres trucs importants?
Il y a un jalon qui est important. C'est, je pense que c'est Le Train Sifflera Trois Fois.
Okay.
Parce qu'il y a eu donc un compositeur qui a fait la musique de manière assez traditionnelle, et il y a eu une chanson qui a été faite, qui a été utilisée dans le film, qui a été ensuite reprise à l'infini par des dizaines, des centaines d'artistes dans les années qui ont suivi, y compris en France d'ailleurs, dans la version française.
Ma mère connaissait la chanson parce qu'elle l'écoutait à la radio quand elle était gamine. Donc, ouais, c'est
et donc,
toi aussi, tu m'abandonnes.
Voilà. Et donc ça a ouvert une nouvelle porte sur le fait que des choses chantées à l'image peuvent faire du, en gros, peuvent faire du fric en dehors de l'image, de manière absolument imprévue à l'époque, et ils vont tout de suite s'embrayer là-dedans et commencer à faire plus de chansons dans les films et plus de chansons qui sont exploitables en dehors.
Ça devient un produit.
Ça devient un produit. Et ça, c'est jamais parti, hein. Ouais. Mais à l'époque, les chansons étaient quand même faites pour les films. À partir des années 60, on va commencer à utiliser des choses venant de l'extérieur.
Et aussi, oui, c'est ça, avoir une chanson titre qui puisse passer sur les radios et servir du coup de publicité permanente pour le film. Et un des compositeurs connus pour ça à l'époque, c'est Henry Mancini, qui fait beaucoup de chansons. Je pense à Moon River pour Diamant sur canapé. Quoi. Il y a plein de gens qui connaissent Moon River et qui savent même plus aujourd'hui que c'était une chanson qui a été composée pour un film.
Alors, on s'écoute un petit extrait du Train sifflera trois fois. Alors, est-ce que le compositeur original, c'est qui?
Tiumkin.
C'est Tiumkin. Est-ce que je peux trouver cette version?
Sinon,
comme
t'as
ça,
la chanson.
C'était qui? Frankie Lane,
hein, c'est
ouais,
ça,
je crois.
Donc Frankie Lane, High Noon.
Do not forsake me, oh my darling.
Et donc là, on est sur une chanson composée pour le film.
C'est ça.
Avec le thème. Enfin, la mélodie est reprise sous forme orchestrale dans le film, mais le générique nous accueille avec ça.
C'est ça, c'est à l'introduction qu'on entend le.
Alors, je sais plus si c'est à l'introduction ou à la fin du film.
Je me souviens pas, j'avoue.
Parce que c'est vrai qu'il y a ça film. Aussi, ouais. C'est que pendant longtemps, les films étaient un peu obligés de mettre le générique au début. Ouais. Donc, ça servait un peu de scène d'exposition, mais du coup, on se mangeait un thème en pleine tête tout de suite. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu pour le mettre à la fin après.
C'est ça.
Mais du coup, il fallait d'emblée réussir à illustrer le film en disant c'est ça que vous allez regarder et voilà ce que vous allez entendre.
C'est ça. On reste encore dans la tradition de l'opéra, en fait, ouais. De l'ouverture d'opéra. Ouais.
Ouais. Et donc, en quelques années, la chanson va commencer à s'avérer être un véritable outil marketing. Et ça va aller jusqu'à des extrêmes où on n'aura plus que des chansons faites pour un film. Comme ça prend du temps, de l'argent, des compositeurs, etc., de l'inspiration, aller chercher aussi des chansons à l'extérieur, des choses qui sont populaires déjà, qui raccrochées au film permettent de faire une bande originale de choses qui ne le sont finalement pas vraiment. Et ça va être les années 60 et les années 70, beaucoup, jusqu'à un moment où on va presque imaginer que la tradition hollywoodienne de l'orchestre est en train de disparaître.
Mmh. Elle se ringardise en fait dans les années 60, ouais. Cette tradition, et le renouveau, il va pas venir d'Hollywood pour le coup. Le renouveau va vraiment venir d'Europe, puisque en Europe, du coup, il y a une nouvelle génération, on va dire cinéphiles, c'est-à-dire de gens qui ont la première génération de gens qui ont grandi en regardant des films et qui sont du coup accoutumés à tous ces tropes musicaux et tout ça. Ouais. Et pour ces gens-là, en fait, on va commencer à développer un nouveau style de musique de film qui est, moi, je dirais, presque un commentaire sur la musique de film. On a ça avec le couple Nino Rota Fellini, où en fait t'as des musiques qui parfois sont pas à leur place, ou en tout cas se font entendre. Tu dis mais pourquoi j'entends cette fanfare de cirque alors que j'ai une scène super dramatique. Ouais. Voilà, quand on voit un film comme 8,5, qui est un film hyper cérébral, cette mélodie sortie d'un cirque, on sait pas ce qu'elle fout là, si ce n'est de nous rappeler qu'on regarde un film. Donc il y a une nouvelle distance qui se fait par rapport à ce qu'on regarde.
Et là, pour une fois, c'est pas Hollywood qui dicte
la
nouvelle norme.
Voilà, parce que je pense qu'effectivement, Morricone n'aurait pas pu émerger à Hollywood. Oui. C'est vraiment un truc qui ne pouvait arriver qu'en Europe à cette époque-là.
Et Morricone, oui, et c'est arrivé dans beaucoup de pays en même temps, puisque c'est arrivé en France avec la Nouvelle Vague, ou de la même façon d'utiliser la musique de manière pas du tout traditionnelle. Ouais. Il y en avait peu, il y en avait beaucoup moins qu'à Hollywood, et elle avait un sens totalement différent à l'image de ce que les Américains faisaient à l'époque.
Mais c'est marrant parce que donc là on est dans les années 60 et moi j'ai grandi dans les années 80 et j'ai été matrixé par Star Wars qui pour le coup prenait un truc un peu ringard finalement parce que commençait avec John Williams pleine patate.
C'est ça, mais on va y venir justement. Ouais, c'est que Star Wars va avoir un impact.
Ça va revenir en fait. Ouais. D'accord.
On a évoqué plusieurs morceaux. Écoutons juste des extraits rapidement. L'un notamment c'était Moon River donc sur Breakfast at Tiffany's d'Henry Mancini. Diamant sur canapé en français.
Diamant sur canapé. Ouais.
C'est ça. Chanté par Audrey Hepburn. Si tu veux la chanson.
Eh oui.
C'est très joli. Ça.
C'est là que tu vois la puissance du truc, parce que j'ai jamais vu ce film. Et j'écoute pourtant, pas, ouais. Et ça me dit quelque chose.
C'est ce que je disais, Moon River, il y a plein de gens, ouais, qui oublient que ça a été composé pour un film, effectivement.
Donc ça illustre la montée en puissance de la chanson dans le cinéma et le fait aussi que ça devient un produit d'appel, mm-hmm, parfois même pour le film, voire il vit sa vie en parallèle du film. Mais tu évoquais aussi un changement plus européen.
Un changement de paradigme dans le rapport du public à la musique de film, et effectivement, et ça
avec Nino Rota notamment.
Nino Rota et Morricone, hein. Morricone, enfin, je veux dire, encore une fois, le générique du Bon, la Brute et le Truand, c'est, enfin, je veux dire, t'as un cri de chacal qui t'accueille d'emblée. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter, quoi? Moi, je suis en train d'écouter une musique qui te fait comprendre que tu regardes un film et que c'est de la musique de film, tu vois. Ouais. Donc, c'est.
Un morceau Nino Rota, hein, de Morricone? De cette
Nino Rota, ouais, tu peux mettre 8,5 de Nino Rota. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu 8,5, c'est vraiment un film qui se passe, c'est les tourments d'un artiste, voilà, qui doit travailler sur son nouveau film. Donc, c'est un film très cérébral. Et la musique qui l'accompagne.
Très bien.
Effectivement, le côté fanfare.
Ça va venir. Le plus connu est juste après.
J'avance un petit peu alors.
Ah bah oui, pareil. Mais donc ça, c'est balancé tel quel dans le film.
Voilà, tu comprends pas. Alors tu comprends au fur et à mesure du film qu'en fait cet orchestre de cirque, c'est le bordel qu'il y a dans sa tête, en fait, qui est tout le temps en train de lui tourner autour, quoi. Mais voilà, on est dans un rapport très différent de ce qu'Hollywood avait institué, parce que la musique, encore une fois, elle se fait remarquer. Et d'ailleurs, il y a un film américain qui sort en 68 et qui, pour moi, est aussi une date importante, mais il n'y a pas de musique originale dans ce film. Il devait y en avoir une. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, 2001 d'ici l'espace, il aurait dû être fait de façon traditionnelle, et la musique avait été confiée à Alex North, justement, d'un très bon nommé Désir. Il a bossé, le pauvre, pendant des mois. Il a découvert à la première du film qu'il y avait absolument rien de ce qu'il avait composé dans le film. Ouais, c'était un gros coup dur, quoi.
Ouais,
surtout qu'il était, en plus, il était malade, il était venu en ambulance et tout. Le truc absolument désastreux. Mais le fait est que Kubrick s'était tellement attaché au morceau,
de musique temporaire.
De musique temporaire qui était mise sur le film avant que la musique soit composée. C'est pour donner une idée aux compositeurs.
C'est comme ça qu'on fonctionne en général en cinéma, si on met une bande son en attendant, entre guillemets, un truc.
C'est souvent pour aider le monteur à donner du rythme à la séquence, en fait.
Et du coup, il avait gardé une grande partie de cette musique temporaire qui était composée de morceaux classiques. Mais ce qui était intéressant, c'est que certains de ces morceaux classiques étaient connus du public. Et donc, quand tu découvres 2001, en 68, mais en fait, le beau Danube bleu, tu le connais. Donc, encore une fois, ton rapport au film, il est conditionné par le fait que t'es en train, pas seulement de regarder une image de l'espace, t'es en train de regarder une image de l'espace, mais sur une valse que tu connais bien. Donc, c'est tout d'un coup, on dit au public, on lui dit, on lui rappelle qu'il y a un spectateur, en fait. Il y a un côté, genre, entre guillemets, post-moderne, déjà, qui commence à s'installer, qui était pas du tout là, parce que quand tu regardais un drame de Bette Davis, la musique, tu la remarquais pas. Elle accompagnait naturellement le mouvement, quoi. Là, elle commente, en fait. Et 2001, c'est un exemple, comme ça, de ce nouveau rapport. Mais pour moi, vraiment, le plus emblématique, c'est Ennio Morricone. Tous les côtés, je sais pas moi, dans Sierra Torre, le film met en scène une nana qui se balade avec une mule. Bon, bah, t'as une mule qui crie pendant tout le morceau, et qui fait comme ça.
Il a fait trop bien.
Jamais un Américain n'aurait osé, à l'époque, un truc pareil.
C'est Morricone aussi, dans Mon nom et personne, qui fait la chevauchée des Valkyries.
Voilà, ouais, exactement. Voilà.
À l'harmonie.
Ça ouvre vraiment la place à l'expérimentation. Alors c'est aussi lié au fait que les gros studios enchaînent les bides, hein, le Cléopâtre par exemple,
avec une film de musique d'Alex North,
voilà. Et donc ça laisse un peu d'espace à des productions plus réduites, à des boîtes plus indépendantes, alors encore plus en Europe avec tout ce qui est les nouvelles vagues, et du coup ce sont des gens qui sont plus ouverts aussi à l'expérimentation musicale. On n'a pas besoin forcément de rester dans la formule qui a été établie depuis des décennies. On peut essayer des trucs un peu différents. Et plus on essaye, plus ça ouvre la voie à des compositeurs qui font de l'expérience, qui essayent des choses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et du coup, ça leur permet d'élargir le scope globalement de la musique au cinéma, au-delà de ce qui a été mis en place en 1930.
On a évoqué évidemment Morricone. Vous avez amené aussi un extrait donc du bon La Brute et le Truand. On s'écoute ça. Ça date de 66.
Évidemment.
Donc ce truc là, ce sifflet, en fait, c'est un cri de coyote.
Ah parce oui.
Que le premier son que tu entends dans le film, c'est un coyote qui crie, qui fait ah, comme ça. Ouais.
Bon, tout le monde connaît évidemment ça.
C'est marrant comment c'est indissociable. Hein, de t'entends ça, tu sais que c'est un western en fait. C'est complètement devenu. Ouais.
Oui, mais c'est bien pour ça qu'on est là aussi. C'est parce que la musique de film permet de donner une personnalité unique à un film donné.
Mais c'est ça, mais c'est limite plus important que l'image pour moi même, parce que ça t'envoie des souvenirs, des choses que.
Oui, mais des souvenirs que tu as construits avec l'image.
Avec l'image, ouais, c'est vrai.
Comment c'est cette prise de risque que vous évoquez, notamment européenne, comment elle est digérée, ou du moins comment on la retrouve derrière aux États-Unis, à Hollywood, qui on l'a compris est quand même un peu le maître étalon.
Ouais, c'est la règle du pognon, hein, encore une fois. Les productions hollywoodiennes, on l'a oublié aujourd'hui, mais Hollywood est mort à la fin des années 60. Les mecs produisaient des tas de comédies musicales hyper datées. Il faut imaginer qu'à l'époque où t'as les hippies qui sont en train de se baigner dans la boue à Woodstock, tu as comment ça s'appelle, la Kermesse de l'Ouest ou un truc comme ouais. ça, c'est ça, avec des cowboys qui font des claquettes et qui dansent, tu vois, au cinéma. Donc il y a un détachement. Enfin, les grands patrons de studio comprennent qu'ils sont complètement à la ramasse, qu'ils comprennent rien à ce qui s'est passé dans leur pays.
Voilà. Et ils savent pas comment faire pour inverser la tendance.
En fait, ils deviennent ringards, vraiment.
Ouais. C'est ça. Et donc, ne sachant pas, ils vont un peu laisser les clés à d'autres.
Aux jeunes, oui.
Un des exemples les plus importants, je pense, c'est le lauréat. Parce qu'ils ont carrément confié la musique à Simon et Garfunkel, qui ont fait donc une musique un peu extra-diégétique classique, et des chansons qui sont devenues célèbres après, mais qui ont été faites pour le film aussi. Donc ça, c'est un énorme carton
véritable humiliation, on va dire, c'est en 69, donc où le plus gros carton de l'année, c'est un film qui a été réalisé pour 20 000 $ littéralement sur les routes, quoi, qui est Easy Rider, avec juste des mecs sur des motos qui sont en train de foncer sur les routes et d'écouter du Steppenwolf, quoi. Et donc là, pour le coup, t'imagines Jack Warner, encore une fois, un mec qui a grandi dans le musical des années 10.
Rien,
je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce pays?
Là, on rentre de plein pied dans le nouvel Hollywood.
Ouais, clairement.
Ok. Et donc, c'est, de manière générale, ce qu'on dit, c'est des auteurs, en fait, qui prennent un peu plus le pas sur l'industrie, qui ont une proposition un peu plus originale, plus en phase avec son époque et la jeunesse de l'époque aussi. C'est valable pour la musique.
Complètement. Bah du coup ils vont justement, tu parlais tout à l'heure de musique folk, bah du coup il va y avoir un appel d'air, hein, qui va se faire je sais pas, il y a des tas d'exemples, mais on a ce film de SF Silent Running qui sort en 71 avec John Baez qui chante sur pratiquement tout le film. Pareil, encore une fois, un truc déstabilisant, c'est un film qui se passe dans l'espace, qui suit un groupe d'ouvriers de l'espace, en fait, et de voir ce vaisseau qui traverse avec la chanson, une voix très très associée à l'époque à la Terre, qui est celle de John Baez. Il y a un côté un peu commentaire, un peu distancé qui s'installe.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que les années 70 sont une des périodes les plus riches en termes de musique, justement par cette espèce de largeur de palette. Mmh. On peut absolument tout essayer, tout passe. La production dira pas non. Donc on a des trucs qui sont très commerciaux, mais on a aussi tout un tas de graduations d'expérimentation avec l'orchestre.
Et encore une fois, sur la question de l'expérimentation, le cinéma fantastique est le plus adapté. Et il y a une grande date, je pense aussi, quand même, pour la musique de film, qui est 1968, La planète des singes, avec une musique de Jerry Goldsmith. Et c'est vraiment la première fois que sur une grosse production de grand public, on a une musique complètement expérimental d'emblée. Je sais pas si
on s'écoute un extrait. C'est le titre principal.
Le thème principal.
Tu me dis si on est bon.
Je suis tellement fan de ça.
Et Et donc, prenant le prétexte du fait que le film se passe sur une planète méconnue, du coup, il y a l'idée de désarçonner le public, de lui faire perdre ses repères. Et donc, tout le score est complètement fait avec des instruments primitifs, désaccordés, etc. Mmh. Et ça fonctionne du feu de Dieu sur le film.
Voilà, mais en plus, en s'appuyant sur des esthétiques musicales qui avaient été mises en place dans le monde du concert, okay. La musique classique des années 20, 30, mais des choses auxquelles Hollywood n'avait pas encore ouvert la porte à l'époque, parce que c'était un petit peu radical quand même.
Et gros, encore une fois, le carton de La Planète des Singes justifie du coup, maintenant on va pouvoir aussi s'autoriser à faire des musiques hyper expérimentales si on juge que ça fonctionne émotionnellement. Et dans les années 70, on aura des tas de trucs, moi certains que je trouve insupportables, mais qui fonctionnent sur le film. Le French Connection, par exemple, sur la musique du film, sur le film, elle est incroyable. À part, je sais pas possible quoi. maintenant on peut. Maintenant les portes sont ouvertes. Et puis à côté, t'as des trucs. Je pense à l'inspecteur Harry qui sort en 71 avec la musique de Lalo Schifrin qui va faire les grandes heures du hip-hop 20 ans plus tard quoi. Qui est un truc complètement funk qu'on n'aurait jamais entendu. Enfin, jamais Jack Warner n'aurait, comme on dit, une musique aussi funk que aussi entre guillemets moderne.
Du coup, une question, c'est quoi une bonne musique de film? Est-ce que c'est une musique qui est indissociable du film ou est-ce que c'est une musique qui justement peut s'écouter en dehors?
Les deux ne s'excluent pas en fait.
Ouais, mais par exemple, donc là tu parlais de French Connection, c'est-à-dire que pour toi, donc le morceau seul, il est limite insupportable.
À titre personnel, après le disque est sorti, il y a des gens qui l'ont acheté, donc il y a aussi des gens qui sont fans parce que c'est une musique très, comment dire,
on peut l'écouter.
Atonale.
Bien sûr, on peut s'écouter un extrait.
Bien sûr. De toute façon, quitte à être démonétisé, autant y aller à fond.
Le compositeur s'appelle Don Ellis.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
C'est un petit peu dissonant quand
tu
même.
Tu mets pas ça le matin, en réveil.
Tu vois l'urgence du mec qui est en train de courir.
Avec l'image, encore une fois, c'est avec le gros French Connection à l'écran et tout, tu fais, ah ouais, là ça va chier quand même.
Mais donc, pour répondre à la question, est-ce qu'une musique doit forcément être écoutable en dehors? Non. Le premier rôle de la musique de film, c'est de servir le film.
Donc là, ça marche à fond.
Une musique peut être excellente, mais pas marcher sur le film.
Ah, vous avez des exemples de...
Il y en a plein.
Le pire pour nous qui sommes justement admirateurs de musique de film, c'est lorsqu'un compositeur fait des thèmes sublimes pour un film complètement ridicule. et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que plus la musique est sublime et plus elle rend la scène ridicule en fait.
Ah oui,
Il y a une augmentation, on va dire, de ce que la scène porte en elle par la musique. Il y a un exemple.
Il y a un cas d'école un peu.
Ouais, je me demande si tu penses au même que moi.
Bah, King Kong 2.
Ah oui, exactement.
King Kong 2, qui est donc la suite du King Kong de 78. Il est sorti quand King Kong 2 en 82, 83.
C'est ça. King Kong est ressuscité par massage cardiaque. Je déconne pas.
C'est vrai.
Ça commence comme ça.
Mais qui lui fait le massage cardiaque? C'est un peu
grand.
Et on lui trouve une femelle, une grande Madame Kong de sa taille, et donc il y a une romance et tout ça.
Ah ouais.
Et
avec des mecs dans des costumes de Kong filmés au ralenti pour donner un effet de masse sur une musique absolument sublime de John Scott.
Et voilà, et John Scott a fait un love theme
en décalage avec le film.
Et le love theme est magnifique, mais t'as quand même deux comédiens déguisés en singes qui se font des mamours, et donc ça, c'est absolument ridicule quoi. Et du coup les gens sont poilés, mais en même temps tu te dis, si la musique n'avait pas été aussi belle, ils auraient pas autant ri en fait. Ouais. Et donc ça dessert pour le coup de la musique.
C'est le seul intérêt de King Kong 2, c'est de rire. Hein.
Certes, oui.
Oui, c'était pas un bon film de toute façon, quoi qu'il arrive.
Mais c'est une musique qui peut s'écouter très sérieusement en dehors, et qui s'écoute très bien d'ailleurs en dehors. Après, l'idéal, c'est évidemment quand la musique est tellement en osmose avec le film qu'elle le sublime et qu'en plus elle peut être écoutée en dehors.
Ouais.
Un exemple parmi des tas d'autres, E.T. de John Williams.
Entre autres, oui. Mais comme le dit Olivier, effectivement, le rôle principal, c'est de servir le film, de servir narrativement et surtout émotionnellement. Et donc, parfois, tu t'aperçois que justement qu'il faut être dissonant, qu'il faut être désagréable pour servir au mieux certaines séquences. Donc, ça, du coup, sur le disque, c'est un truc que tu vas passer dessus parce que ça n'a pas forcément plus d'intérêt dissocié de l'image.
C'est-à-dire que les compositeurs ne cherchaient pas ça alors? quand eux, enfin, pour eux, c'était correspondre absolument au film, quitte à ce que les gens aiment pas ta musique en dehors, mais c'est pas grave. Parce que,
c'est ça.
On peut penser qu'au contraire, ils se disent, ah ouais, moi je suis en train de faire la musique de film, il faut absolument que les gens qui ont aimé le film écoutent ça chez eux après, c'est tant mieux pour moi.
Beaucoup de compositeurs qui se sont spécialisés dans la musique de film sont pas des gens forcément qui étaient motivés par une carrière en disque ou sur scène. T'en as qui auraient pu devenir des compositeurs sur scène, et quand on leur posait la question pourquoi ils ont choisi la musique de film, je crois que c'est James Horner qui disait ça. Il me disait est-ce que vous pensez que dans la musique classique à 24 ans on m'aurait filé le London Symphony Orchestra parce que il faut aussi compter avec ça. Quand tu réussis dans la musique de film, tu as les meilleurs musiciens à ta disposition.
Oui, il y a les moyens qui arrivent,
voilà, c'est complètement fou.
Et tu entends ta musique pratiquement quelques semaines après l'avoir écrite et non pas parfois 15-20 ans quand t'as écrit une symphonie que personne ne veut jouer. Donc c'est
un accélérateur aussi.
C'est ça.
Il y a certains qui ont choisi la musique de film pour ça, parce qu'ils savaient que s'ils réussissaient dans cette branche, ils allaient avoir le plus grand luxe, les meilleurs musiciens, et effectivement pouvoir entendre très vite leur musique. Et James Horner, c'est un pour le coup un cas d'école, parce que il était très jeune quand il s'est retrouvé à la tête des plus grands orchestres du monde.
À côté de ça, il faut aussi savoir mettre son ego un peu de côté. Parce qu'il faut accepter que la musique soit coupée, remontée, soit couverte de dialogues, d'effets sonores.
Ou pas utilisée même, du coup.
Pas utilisée. Enfin, il y a toutes les configurations sont possibles pour humilier un compositeur quand il travaille pour le cinéma.
D'accord.
Donc, il faut avoir les reins solides quand même pour faire ce métier-là. Il y a des avantages, il y a des récompenses, mais il y a aussi des points un peu plus négatifs sur lesquels il faut pas... disons qu'il faut pas mettre de côté... Quand on recommandera à quelqu'un de faire sa carrière dans le cinéma, il faut vraiment qu'il sache ça d'abord, parce qu'il y en a qui ne le supportent pas. En fait.
Ouais. Jerry Goldsmith, quand il faisait ses concerts à Londres ou au Barbican, etc., il aimait bien, parce qu'il se retrouvait devant un public de fans, des gens qui avaient payé cher leur billet, qui avaient fait le voyage, et qui étaient très très respectueux, et lui rappelait sur scène, il disait, vous savez, vous pouvez manger, vous pouvez appeler au téléphone,
moi je suis habitué à ça.
Généralement, j'ai des accidents de voiture qui viennent couvrir mes solos de violon.
Voilà, et c'est
aussi, qui était détendu par rapport à ce truc-là.
Et c'est aussi pour ça que c'est un métier qui n'est pas ouvert à tout le monde, parce qu'il y a un certain nombre de techniques qu'il faut maîtriser. C'est pas juste d'être compositeur et de savoir écrire de la musique. Il y a des instruments qu'on n'utilise pas, par exemple sur des scènes de dialogue, parce que la tonalité est trop proche de la voix humaine, les deux s'annulent.
Les fréquences.
Il y a plein de choses comme ça, donc c'est un vrai métier en fait.
C'est un vrai boulot, et un des aspects les plus importants de ce travail, c'est avant la composition, c'est ce qu'on appelle le tracking. C'est quand le compositeur et le réalisateur regardent le film et qu'ils choisissent les moments où la musique va intervenir. Et ça, pour le coup, justement, Goldsmith était connu pour ça. C'était quelqu'un qui pouvait effectivement dire qu'il n'y a pas besoin de musique. Alors que le réalisateur pensait que cette scène devait avoir de la musique et lui dire non, fais-moi confiance. Ça, tu laisses le silence, la musique va arriver juste à la fin de la scène, ça sera très bien et tout. Ouais. Et ça aussi, ça veut dire mettre son ego de côté, parce que c'est pas ta musique qui va porter cette séquence.
Il y a un exemple que je trouve marquant. Vous me dites si c'est une bêtise, mais il me semble que c'est juste. C'est Morricone qui distinguait ce qu'il produisait pour cinéma, ce qu'il produisait à côté, parce qu'en fait, il était extrêmement prolifique en parallèle du cinéma, Morricone. Et il parlait de musique appliquée d'un côté. Et de musique absolue de l'autre. Je sais pas si c'est un truc que vous avez déjà entendu.
Oui, absolument.
Et c'est intéressant ça, tu vois, comment, et notamment le terme musique appliquée, et avoir conscience qu'il se met aussi au service, qu'il l'applique à un support, et qu'à côté il y a la musique absolue qui tout de suite paraît plus importante, tu vois, absolue, mais c'est en dehors du cinéma, tu vois.
Oui, et qui est un style de musique qui n'a jamais réussi à porter suffisamment pour que ce soit accepté par le public.
Ah bah ça, de toute façon,
c'est toujours resté confidentiel, alors que ces musiques de films sont extrêmement connues.
C'est la grande malédiction de beaucoup de compositeurs de musique de film, parce que c'est rare, en fait, les profils qui font exclusivement ça, il me semble, quand même, qui font exclusivement de la musique de film.
Alors, ils le font majoritairement.
Oui.
Ils finissent toujours par essayer de faire un petit truc à côté, une symphonie, un truc pour une cérémonie, un truc, mais ça reste marginal, simplement parce que ne serait-ce que pour payer les factures, il faut enchaîner les films, donc le gros de leur carrière reste quand même au cinéma ou à la télé.
Et ce qui est intéressant, c'est que si on découle un peu de tout ça, tout à l'heure on évoquait John Baez, on évoquait Simon & Garfunkel. Là, en l'occurrence, c'est pas des gens qui viennent de la musique de film. Est-ce qu'il y a justement, alors on essayait de poser des jalons, ce moment où tout d'un coup ça s'ouvre et c'est plus des gens dont c'est le métier mais on commence à confier de la musique de film à des artistes qui ont prouvé par ailleurs, mais pas dans le cinéma.
Alors, pas encore là où on en est là, historiquement, parce que en gros, là, les années 70, c'est open bar, tout le monde peut faire des essais dans tous les sens, tous les styles de musique sont acceptés.
Pas tous.
Bah quasiment.
Bah non, parce que justement la musique traditionnelle hollywoodienne,
bon, il y en a encore, elle, encore un petit peu, mais plus tellement.
Elle est devenue tellement ringarde que c'est quand même une époque, les années 70, où les légendes d'Hollywood, on parlait d'Alex North, on parlait de Bernard Herrmann, se retrouvent à bosser dans les séries B d'horreur, par exemple. Herrmann, il a fait Le Monstre est vivant, par exemple. Bon, c'est pas le genre de film qu'il aurait fait à l'époque où il bossait avec Hitchcock ou Orson Welles, quoi, si tu veux. Ceci dit, il a fait des partitions majeures pour ces films-là aussi, mais ces mecs-là se retrouvent quand même sur la paille. Elmer Bernstein, il était bien mal en point aussi, donc ils ont quand même traversé les années 70.
Ils faisaient de la comédie.
Typique Bernstein, en fait, voilà, il s'est recyclé grâce à la comédie, c'est-à-dire qu'il
alors que c'était un des rois du western quand même.
Mais comme c'était des comédies qui justement parodiaient le cinéma hollywoodien d'avant, du coup, il était parfait pour ça.
On lui demandait de faire son travail normal, lui.
C'est ça. Ouais. Et la musique de Y a-t-il un pilote dans l'avion, Airplane, c'est une vraie musique de film catastrophe hollywoodien de la fin des années 60.
Les compositeurs acceptent de se parodier finalement pour continuer à bosser.
et parce que
ils acceptent même de plagier d'autres gens. Ouais. On va pas donner d'exemple précis, mais il y a plein de plagiats qui sont faits non pas parce que le compositeur voulait pomper telle ou telle autre pièce existante, mais parce qu'on lui dit il faut que ça sonne comme ça. La musique temporaire, c'est ça. Il faut que tu fasses un truc qui soit la même chose, mais pas la même chose.
C'est marrant, c'est ce qu'on fait dans la publicité encore aujourd'hui. Ça,
bien sûr. Donc c'est pas non plus facile à faire ça. Il y en a qui s'y sont brûlés les doigts ou les ailes.
Mais sur la question de la parodie, je pense que Bernstein, il était conscient que son style musical était daté et que du coup, il ne pouvait plus être que parodique. Ceci dit, ça n'empêchait pas de briller. Moi, il y a ce western Triamigos, voilà, un truc avec Steve Martin, donc une pure parodie de western. Moi, quand j'écoute la musique à part, je vois les sept mercenaires.
Ouais. C'est une vraie musique de western.
c'est une vraie musique de western. Quoi.
Et donc, le truc qui va remettre un peu l'orchestre au goût du jour, c'est en 77. Un petit film qui s'appelle Star Wars, un succès un peu inattendu, qui a été mis en musique de façon extrêmement sérieuse et extrêmement traditionnelle par quelqu'un qui est relativement pas débutant, parce qu'il a déjà eu même des Oscars et tout, mais il est quand même pas très vieux et il est pas ultra mondialement connu. Il va l'être du jour au lendemain, c'est donc John Williams, et la musique de Star Wars va vraiment remettre l'orchestre au premier plan. Et à partir du succès de Star Wars, tout de suite, ça va revenir dans tous les films qui suivent. On va retrouver l'orchestre traditionnel.
Est-ce qu'on a besoin de mettre un extrait? Oui.
Faisons-nous striker. Ouais.
Et donc, tout Star Wars, c'est vraiment un hommage délibéré, justement, à ce cinéma qu'on a enterré à la fin des années 60. C'est une tentative de retour à l'innocence, un retour à l'âge d'or.
Mais oui, mais ce qui est génial, c'est que ça n'a aucun putain de rapport avec des guerres ou des étoiles ou de l'espace, quoi, tu vois. Et pourtant, ça marche.
Il y a un souffle épique quand même. Alors, est-ce que c'est la musique en elle-même qui est ça, ou alors on la lit aux images, je ne sais pas. Mais il y a une espèce de...
Mais en plus, il n'y a pas d'image. Quand t'entends ce truc-là, t'as juste le texte qui défile, là, tu vois. Tu sais même pas ce que tu vas regarder, en vrai.
C'est que la musique en elle-même évoque quand même un truc
La musique, elle prend de la place, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport. C'est normalement, épique. Après une musique comme ça, tu t'attends à voir deux chevaliers qui se foutent sur la gueule, ou tu vois. Pas des mecs.
C'est des chevaliers.
Ouais. En fait, c'est des Jedi. Ouais.
En fait, c'est assez simple. Le space opéra, c'est la variation spatiale du roman d'aventure du 19e siècle, qui était souvent des histoires de pirates. Donc, tu remplaces les bateaux de pirates par des vaisseaux spatiaux. T'as littéralement les mêmes enjeux avec le mec avec son épée qui va délivrer la nana qui a été capturée par Barbe Noire. Là, s'appelle Dark Vador. Et le spécialiste du cinéma de pirates dans les années 30, c'était Korngold. Si tu peux le trouver,
bien sûr.
Il a fait un mélodrame qui s'appelle King's Row, K-I-N-G-S, R-O-W. Et je te laisse écouter le tout début.
King's Row.
Donc c'est.
Korngold.
Qu'on entende le style de Korngold et vous allez comprendre.
Oui, mais c'est une similitude.
C'est de l'hommage.
Ah là, ouais, c'est ce que disent tous les mecs qui ont pompé, hein.
C'est dommage, mais c'est stylistique, c'est pas la mélodie. C'est pas la même mélodie, en fait.
Ouais.
On a l'impression que c'est la même.
C'est tellement le même style que...
Parce que c'est écrit à la manière de... Mais c'est pas...
Parce que ça ressemble vraiment beaucoup, là, ouais, pour le coup.
Moi, j'entends ça, je l'ai fait, je me tribunal.
Oui, mais tu perds. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les monteurs de Star Wars, Paul Hirsch, Martial Lucas, etc., à l'époque, il y avait la musique de films hollywoodiennes traditionnels, c'était fini, c'était enterré, et c'était devenu un truc du passé, et on commençait à sortir des compilations de musique, justement, du Hollywood de l'âge d'or. Et il y a plein de gens qui ont découvert la musique de films de l'âge d'or avec ces disques-là.
D'accord.
Notamment les enregistrements de Charles Gerhardt. Et donc ils avaient à la disposition tous ces trucs de Korngold, de Waxman et compagnie. Et comme pour eux Star Wars était un retour au cinéma ancien, ils se sont aperçus que cette musique-là fonctionnait vachement bien avec les images qu'ils ont montées. Donc du coup, Star Wars a été blindé de Alfred Newman et compagnie, et ça donnait déjà une direction à Williams. Et Williams, ben, pour lui, c'était évident, le roi du swashbuckler, c'était Korngold, donc il allait aller dans le style de Korngold direct. Et en plus de ça,
t'as dit le roi du quoi, pardon?
Du swashbuckler, le film de KPIP.
Ok. Ouais. Très bien.
On appelle ça le swashbuckler à Hollywood. Le film de pirate, quoi. Et Star Wars, c'était vraiment conçu comme ça, musicalement. Et en plus de ça, je suis pas musicien, donc faut m'excuser si je dis des bêtises, mais la tonalité, la clé du thème de Star Wars, elle a été composée en fonction du logo de la 20th Century Fox qui avait été composé par Alfred Newman, le fameux.
Bon, il fallait que ce soit dans la même tonalité.
Parce qu'en fait, ce logo, ça faisait des années qu'on l'utilisait plus au cinéma, et Lucas voulait absolument l'avoir. Justement, pour lui, c'était une façon de dire aux gens, le film que vous allez voir, c'est un retour,
c'est un film,
film à l'ancienne, mais avec des techniques nouvelles, on va dire quoi. Et du coup, il a composé avec en tête qu'il allait avoir ce logo juste avant, en fait, quoi. Donc tu vois, c'est pas fait au hasard, quoi. Ils ont vraiment réfléchi au fait que cette musique était un rappel de quelque chose qui s'était perdu, en fait, une forme de paradis, ouais, marrant, ouais. De paradis perdu. Et le carton absolu de Star Wars, le public, c'était ça aussi. C'est tout d'un coup ce public des années 70 qui était très cynique. Enfin, on était au fond du gouffre, quoi, en termes de joyeuseté à Hollywood. On rigolait plus trop. Les films étaient magnifiques, mais on rigolait franchement pas. Tout d'un coup, c'était non, mais on peut, en fait, le cinéma, ça peut être juste fun. Et ça a tellement explosé que il y a eu pour le coup un appel d'air, encore une fois, et dans les années suivantes, tous les compositeurs, y compris ceux qui étaient pas forcément habitués à faire du symphonique, se sont dit c'est le moment, quoi. Et c'est là où on a par exemple un mec comme Bill Conti qui faisait des musiques très moderne, entre guillemets. Enfin, Rocky était sorti en 76 et c'était une musique considérée comme moderne. Après Star Wars, il a fait des trucs comme
Les maîtres de l'univers.
Non, mais je pense à Fist.
Fist, c'est un bon film, par contre.
Oui, mais le score de Fist,
c'est
un truc symphonique complètement.
C'est presque un score de péplum, en fait.
C'est ça. Et dans de 77, je dirais à 82-83, on a eu un mini âge d'or,
retour à
la musique symphonique hollywoodienne à l'ancienne.
Après, l'orchestre va pas disparaître, il va rester, mais il va cohabiter avec d'autres styles musicaux.
Parce que en parallèle, John Williams, remet au goût du jour l'orchestre en particulier. En parallèle, il y avait d'autres propositions. Alors, soul, jazz, rock, tout ça, on le retrouve aussi au cinéma à cette époque-là. Mm-hmm. Y compris d'ailleurs dans la Blaxploitation, dans les séries,
oui,
B, etc.
Ça partira plus jamais, ça.
Ouais.
Et à côté de ça, il y a aussi un nouveau, entre guillemets, un nouvel instrument qui se développe, qui est le synthétiseur.
Okay.
On a au début des années 80 Jean-Michel Jarre qui cartonne, Giorgio Moroder, des gens comme ça, et on commence à avoir pas mal de musiques qui sont faites pour des films au synthé. Il y a aussi une raison évidemment financière, puisque c'est pas cher.
C'est pas seulement financier, c'est aussi encore une fois une façon d'interpeller le public, justement, par quelque chose d'inattendu.
Je pense Blade Runner ou un truc comme ça.
Et même avant Blade Runner, il y avait un énorme carton filmique qui est aussi devenu un carton discographique, qui est Midnight Express.
Moroder, en l'occurrence. Il faut qu'on s'arrête de toute façon sur Moroder. C'est quand même important, non?
C'est quelqu'un que vous, ça, non, que vous estimez
enfin, c'est son plus gros succès.
C'est son plus gros succès.
C'est son plus gros succès.
Non, Top Gun.
Stylistiquement, c'est important, oui.
Top Gun aussi.
Hein. Mais c'est pas Marauder, Top Gun.
Top Gun.
C'est Harold Faltermeyer.
C'est Harold Faltermeyer.
Non, non.
Attends, je comprends, c'est pas Top Gun alors.
Oui, Scarface ou Marauder. Non, Top Gun, la scène sur le porte-avions avec le coucher de soleil, là, et tout, c'est...
Attends, Take My Breath Away, c'est pas Marauder?
Non.
Non, ça, c'est alors, si, Berlin.
Si, peut-être que les chansons...
C'est composé par George Moroder.
Mais la musique de Top Gun, c'est pas Marauder.
Ok, donc, pas le score, mais en tout cas, la chanson qui apporte, et qui est devenue un tube, c'est composé par Marauder.
C'est possible qu'il ait bossé, oui, sur le film.
Highway to the Danger Zone, la musique qui est vraiment... Take My Breath Away, c'est la scène de baise.
Oui, et peut-être.
Mais dans Top Gun, tu penses d'abord aux avions de chasse, quand même.
Mais ça reste un gros tube. Et je me demande d'ailleurs s'il a pas reçu,
C'est celle que j'écoute le moins, hein, perso. Ok, je comprends.
Bref, c'était une des contributions de Cad Moroder à la musique.
Oui,
mais il y en a d'autres encore. C'est pas quelqu'un de majeur pour vous dans la... C'est pas quelqu'un de majeur pour vous dans la musique au cinéma, Moroder?
Disons que c'est quelqu'un qu'il est impossible de ne pas remarquer. On n'est pas obligé d'apprécier tout ce qu'il a fait. Parce que finalement, musicalement, en termes de composition pure, c'est pas très très élaboré. Ouais. C'est très produit, mais c'est pas très écrit au départ. Et ça reste assez basique, en fait.
Et donc ça a fonctionné, je pense, sur Midnight Express, parce que ça a interpellé, encore une fois, le public. Tu t'attends pas, quand tu vas voir une histoire d'un mec enfermé dans une prison turque, tu t'attends pas à entendre du disco, quoi. Ouais. Et pourtant, ça fonctionne, justement, par ce côté un peu bizarre, pas à sa place.
Moi, je crois que ça fonctionne à l'époque. Que ça fonctionne plus aujourd'hui, que le film a pris un vilain coup de vieux, justement, entre autres, à cause de sa musique.
Ouais.
Alors qu'à côté de ça, Star Wars n'a pas bougé.
Ouais.
C'est un point de vue évidemment personnel, pour le coup.
Non, mais c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est soit tu rentres à fond dans les codes qui sont attendus et ton truc devient intemporel, soit tu essaies vraiment de prendre les gens, en fait, de cours et...
Oui, mais il y en a qui ont réussi à devenir intemporel en faisant ce que tu décris là.
Alors quoi,
par exemple, John Carpenter.
Ah, pour 1997.
Ouais, ou Halloween, ou des choses comme ça. Quelque part, c'est figé dans le temps, mais ça fait pas vieillot.
Ouais.
En tout cas, encore une fois, c'est uniquement mon point de vue.
Ce qui est intéressant dans notre débat, c'est que pour la première fois, justement, on commence un peu à débattre. C'est-à-dire, est-ce que dans les faits, il y a réellement une, non pas une forme de scission, mais d'un côté, il commence à y avoir vraiment l'école qui relancée par John Williams, et qui dit on garde l'orchestre, et puis à côté, les mecs au synthé, pour dire ça de manière vulgaire, et qui, travaillent différemment, simplement au cinéma. Et est-ce qu'il y a deux écoles et on commence à plus être d'accord?
Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais encore une fois, c'est toujours réservé à des films précis ou à des genres précis. Tu vois, le truc avec Carpenter, c'est que ça ne fonctionne que sur les films de Carpenter. Non, mais vraiment. Il y en a d'autres qui ont essayé de faire des musiques à la Carpenter sur leurs films, et ça fonctionne pas. Pour ce qui est de l'arrivée du synthétiseur, il y a eu effectivement plein de débats. Oui. Et en même temps, l'un des précurseurs, en tout cas de ceux qui a le plus travaillé sur le synthétiseur au cinéma, c'est Jerry Goldsmith qui en utilisait déjà dans les années 60 et qui toute sa carrière en a mis partout, sauf que lui son obsession c'était de l'intégrer naturellement à l'orchestre. C'était on a l'impression que cet instrument a toujours été là.
Ouais.
Alors il y a des films encore une fois qui vont lui permettre de plus le faire avancer que d'autres, comme d'habitude les films fantastiques. C'est sur Star Trek où vraiment là pour le coup le synthé est devenu très important chez Goldsmith.
Puis on pourrait évoquer Wendy Carlos aussi quand même sur les sonorités électroniques.
Bien sûr.
Ouais. Mais qui fait le lien justement parce que c'est orchestré d'une certaine manière. En tout cas, c'est comment c'est composé.
Bah, c'est du classique joué. Rejoué au synthé par Wendy Carlos.
Ce qui est marrant, c'est que justement, si on parle de synthé, perturbant. Ou en tout cas novateur, c'est genre Vangelis sur Blade Runner, mais Vangelis il a aussi fait les chariots de feu, et là pour le coup on est dans un truc giga classique, alors que il y a toujours cette approche.
Il y a pas du tout de synthé sur les chariots de feu, je vois plus.
Mais par contre, en fait, ça ne fait pas du tout moderne.
Ah.
Quand t'écoutes les chariots de feu, c'est Vangelis, mais c'est pas Blade Runner, tu vois.
Peut-être parce que le film est nettement moderne que Blade Runner aussi.
Aussi, mais
c'est beaucoup plus traditionnel les chariots de feu.
Ouais, mais justement, mais c'était pour revenir sur ce truc de dire quand tu faisais du synthé, c'est que t'étais un peu dans une approche moderne, machin, etc. En fait, non, pas forcément, tu vois. Et les chariots de feu, c'est les gens, je pense, peuvent le recevoir comme t'écouterais un truc classique, alors que c'est Vangelis, c'est du synthé, quoi, tu vois.
Au final, ça dépend des artistes en fait qu'on a en face de nous. Ça passe ou ça casse. Il y en a qui font du tout synthé, ça marche ou ça marche pas. Mm-hmm. Il y en a qui font du tout d'orchestre, du tout orchestre, pareil, ça marche ou ça marche pas. Il y en a qui vont fusionner ces gens-là avec encore d'autres choses et ça va passer. C'est c'est pas à la gueule du client, mais disons qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres.
Ouais. Et il faut que le film l'appelle d'une façon ou d'une autre. Goldsmith, il a beaucoup utilisé le synthé pour des raisons psychologiques, en fait. C'est par exemple sur Seconds, le film, le thriller de la fin des années 60, ouais. Voilà, qui met en scène un mec qui est en train de perdre la boule, quoi. Et là, effectivement, les bruits au synthé étaient idéal. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler du théremin, oui. Cet instrument qui est associé aux soucoupes volantes dans le cinéma des années 60.
Star Trek, quoi.
Bah, la première utilisation du théremin, c'est pas du tout pour des aliens. C'est un film sur l'alcoolisme qui s'appelle Le Poison de Billy Wilder avec une musique de Miklos Rosa. Et en fait, le théremin était l'appel de la boisson chez le personnage. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il commençait à sentir qu'il avait craqué, t'avais qui arrivait vers lui comme ça, tu vois. Donc c'est aussi, c'est là où tu vois que ces compositeurs, ils travaillent vraiment la psychologie du récit, la narration, en fait. C'est vraiment des raconteurs d'histoire.
Bon, on l'a évoqué, je mets juste quand même un extrait de Midnight Express.
Allez.
Ah, pas celui-là, mais celui-là, cool, je le mets. Celui-là, je le préfère.
Cool, il est cool, celui-là.
Ouais.
Allez.
Mais c'était The Chase que. Ouais. Sur la compile Synthétiseur 3.
Ouais, toi aussi.
Non, on est sur l'électrique.
Donc effectivement, il y a eu ce renouveau du symphonique à la fin des années 70 et qui va perdurer jusqu'à la moitié des années 80, on va dire. Le synthétiseur va aussi s'imposer dans cette période-là. Encore une fois, merci à Jerry Goldsmith qui va vraiment faire avancer le truc. Je vous donne quelques exemples de têtes qui sont, par exemple, on en a sur Gremlins, pas mal, okay. Du synthé utilisé par Goldsmith. Il en a utilisé sur Rambo 2 surtout. Il y a pas mal
de synthé. Oui, c'est assez magnifique sur Rambo 2.
Juste parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Jerry Goldsmith.
C'est une légende.
Pour vous, c'est
Dieu.
Le summum,
c'est
le...
Okay. C'est Dieu.
Ah oui, okay.
Il est au-dessus de tous les autres.
Pourquoi?
Le fait est que Olivier et moi, on est de la génération Star Wars, donc on a découvert la musique de film à cette époque-là, et les deux grands noms qui ont surgi pour les jeunes que nous étions, c'était John Williams par la force des choses, à cause des cartons des films aussi, hein. Ça a aidé Star Wars, Indiana Jones, Inti, tout ça. Mais aussi, on a découvert cet autre gars qui était Jerry Goldsmith, qui était extrêmement pléthorique à l'époque. Enfin, je sais pas, il sortait
7 films par an, oui.
Et à chaque fois, c'était un score complètement... même si le film était peu connu et avait pas marché, le score était délirant, mortel, quoi.
C'est ça, il s'agit pas de choisir entre John Williams ou Jerry Goldsmith. Williams est un grand, mais c'est un grand... qui a bénéficié du cinéma de Spielberg toute sa carrière et qui est voilà, il a la tête haute, il est noble, il est toujours dans un style musical qui lui ressemble, qui est absolument ciselé comme personne d'autre ne sait faire, mais dont il sort pas tellement. Goldsmith, ça part dans tous les sens. Il va faire des trucs tout au synthé, des trucs avec que des instruments bizarres, faire jouer des mecs. Enfin, ça c'est dans La Planète des Singes, mais avec des maillets sur des bols en aluminium, émettre les embouts des trompettes à l'envers parce que ça donne un son un peu étrange.
Ou faire une pure musique de film d'horreur pour un dessin animé pour enfants. Enfin, ce mec est fou. Quoi,
il avait peur de rien. Et alors parfois il se cassait un peu la figure. C'est arrivé rarement. Mais la plupart du temps, ça donnait des choses hallucinantes. Donc c'est très, très varié. Et en plus, pas vraiment calé pour être spécialement grand public, pas forcément ultra thématique. Il était capable de le faire très, très bien. Mais il faisait des choses qui étaient quand même un peu étranges parfois. Et qu'il fallait, il fallait avoir un petit peu d'attention pour noter ce que c'était que cette musique bizarre sur le film, quoi.
Donc c'est un peu exigeant, quoi, comme
un peu plus.
Ouais
peut-être. Mais c'est vrai que moi j'ai bossé quelques années en tant que vendeur de musique de film à la Fnac, et c'est vrai que chez les collectionneurs, en gros, voilà, Goldsmith, si te manquait un seul titre de sa très très riche carrière, t'allais te faire engueuler, quoi. Il fallait que le rayon soit bien fourni.
Et d'après ce que je comprends, c'est il accompagne les époques, il sait se renouveler, il sait à un moment j'évoquais pourquoi pas une scission, pour lui c'est pas une question,
il a jamais eu de sujet, et il est mort disons au tout début des années 2000 à un moment où sa carrière n'était pas encore remise en question. Je pense qu'il aurait vécu plus longtemps, il aurait peut-être arrêté de travailler parce que le Hollywood a beaucoup changé à cette époque-là, mais ça l'a pas vraiment impacté lui.
On n'a pas écouté de Jerry Goldsmith jusque-là.
On a eu un petit peu de La Planète des Singes.
Ah oui, tout à l'heure, pardon, c'est vrai.
Bon, il y en aurait 100 000 à sortir. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment fait passer dans le cap, j'étais cinéphile très jeune, mais ce qui a fait de moi un amateur de musique de film, c'est un film qui s'appelle Under Fire. Et j'ai vu le film, j'ai bien apprécié, mais j'étais complètement estomaqué par la musique, et je suis allé directement l'acheter juste après, quoi. Et ça a été le début de ma collectionnite, on va dire. Et quand j'ai vu le rayon de ce compositeur que je connaissais pas à l'époque et que j'ai vu qu'il y avait des centaines, quoi, je me suis dit, ah oui, il y a du boulot. Under Fire, ça a été réutilisé d'ailleurs par Quentin Tarantino dans Django, je crois.
Tout à fait.
Il a repris un morceau d'Under Fire.
Ouais.
Toi, tu confirmes, c'est aussi un
très important moment, Under Fire. Ouais. Pas ultra connu, mais très très important.
Il y a un titre sur la BO qu'on pourrait écouter.
Barro Fuego.
Je pensais au End Titles en fait.
Le thème il est joué par en plus une.
Barro Fuego, le morceau est joué par Pat Metheny, mais
voilà.
Pas carrément celui-là, d'accord.
Ouais,
mais comme vous voulez. De toute façon, tout l'album est bien.
Barro Fuego. Ça c'est Barro Fuego. Et donc c'est Pat Metheny à la guitare. Ouais.
Quand même.
Ça va. Quand on dit que t'as accès à tout le monde, tu vois, c'est juste c'est le nombre d'anecdotes où t'as, je sais plus comment, c'était James Horner.
Qui, il a eu tous les grands solistes de son époque.
Et à un moment donné, il voulait du Tin Whistle, et il a demandé littéralement, il a dit c'est qui le plus grand musicien de Tin Whistle au monde. On a sorti le nom d'un Irlandais qui sortait jamais de chez lui. Il a fait ramenez-le moi. 12 heures après, le mec était là.
Et vous évoquez le fait que c'était repris par Tarantino. Est-ce que c'est le morceau Nicaragua qui est sur Django Unchained derrière,
ouais,
c'est ça,
ça ouais.
Bon, allez, on voit à quoi ça ressemble aussi.
Je sais plus quel est le morceau dans Django.
Il a repris ce morceau. Donc, Under Fire, ça se passe au Nicaragua, donc pendant la guerre civile.
Ok, on a compris votre amour pour Goldsmith. On encourage tous ceux qui nous regardent à aller écouter du Jerry Goldsmith.
Vous le connaissez forcément, en fait. J'ai cité Star Trek.
Le thème de Star Trek au cinéma, c'est Goldsmith.
J'ai cité Rambo.
Un petit thème de Star Trek quand même. Hein. Excusez-moi, mais c'est quand même la moindre des choses.
Allez, écoute, allez.
C'est très fanfare.
Ouais. Voilà.
Ah.
C'est un peu lent, c'est pas l'original. Ça.
Okay.
Mais c'est pas grave, ça fait.
C'est marrant parce qu'on est aussi effectivement dans les codes de Star Wars.
Clairement. Ouais, sur Star Trek, c'est ce qui avait été demandé.
Le film a été fait suite au succès de Star Wars, il n'aurait jamais existé sinon.
Et effectivement, sur le générique, il est très John Williams, il savait le faire aussi. Par contre, dès l'ouverture du film avec l'attaque des Klingons, alors là, c'est synthé dans ta face. Il y a des tas de bruits bizarres qui t'arrivent.
Ouais,
et puis des
instruments. Des instruments jamais utilisés avant dans un film. Il y en a dans Star Trek. Des trucs super étranges qui a été les chercher, on sait pas même pas comment
l'espèce de corde comme un fil électrique que tu bouges
alors il y a ça, il y a le blaster beam
voilà,
ouais. Qui est une espèce de truc fabriqué par un mec dans un tuyau amplifié, enfin ça fait un son de baleine, quoi, c'est super étrange.
Ouais, donc il y a de l'expérimentation.
Il a fait la musique aussi de Chinatown, on parlait de jazz tout à l'heure, voilà, qui est pareil, une musique de jazz incroyable. Non, enfin, il savait vraiment tout faire, mais surtout, toujours au service du film. Et quand Olivier tout à l'heure disait qu'il y a des films de 3 heures avec juste une demi-heure de musique, je pense qu'il faisait référence à Patton.
Tout à fait.
Effectivement, où c'est Goldsmith lui-même qui l'a dit au réalisateur, qui lui a vraiment conseillé d'avoir très peu de musique dans le film, parce qu'il sentait que au niveau narratif, ça, dès l'instant où la musique allait arriver, le public allait respirer et qu'il était sous tension le reste du temps.
Oui, et d'ailleurs, en fin de carrière, il trouvait qu'il y avait trop de musique dans les films et que lui-même, on lui en demandait trop. Et que ça diminuait l'impact dramatique de l'entrée de la musique en scène, puisqu'il y en avait finalement presque tout le temps. Ouais. Et du coup, on ne la remarquait plus.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, les dernières partitions de Goldsmith, c'était pour des films comme La Momie, Mulan,
Le Treizième Guerrier.
Et franchement, rien que ces trois-là, vous pouvez les écouter, vous allez vite être converti.
Voilà.
On se rapproche petit à petit. On avait une, on a fait un petit arrêt Goldsmith, mais on avait une approche chronologique jusque là. On terminera avec une partie où on évoquera quand même la musique d'aujourd'hui, et peut-être qu'on peut mettre comme comme moment un peu charnière, bah c'est l'avènement de Hans Zimmer. Bah, je pense qu'on pourra.
Hermann von Badaboom.
Mais avant Hans Zimmer, pour clôturer un peu cette partie, est-ce qu'il y a encore un ou deux marquants importants?
Il y a encore une étape importante à mes yeux, à nos yeux, parce qu'on est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est l'arrivée de la world music par l'intermédiaire d'une pop star qui s'appelle Peter Gabriel et qui va être embauché par Martin Scorsese pour faire la musique de la dernière tentation du Christ et qui va faire un truc qui va littéralement révolutionner la musique de film.
Tout à fait.
Pour quelle raison?
Bah déjà à l'époque effectivement lui il est dans cette obsession de regrouper tous les styles musicaux du monde pour essayer de voir s'il y a pas une façon de dialoguer musicalement d'un pays à l'autre. Donc il est dans l'expérimentation totale, et comme le film de Scorsese bah il y a une tradition du film religieux justement porté par Hollywood avec des comme ça bon. Et il se dit mais sauf qu'à l'époque du Christ on n'entendait pas ce genre de musique-là. Qu'est-ce qu'on pouvait entendre si ce n'est des chants un peu berbères ou des trucs d'inspiration, etc. Et donc, il va essayer de faire une musique qui fasse sens par rapport à l'époque, mais qui en même temps soit moderne et en même temps soit suffisamment dramatique, parce qu'il y a des moments où c'est censé être prégnant et pas prendre le pas sur l'image, et des moments où au contraire la musique doit être très très en avant. Et c'est vrai que on l'a pas réalisé en voyant le film à l'époque.
Non, c'est clair.
On trouvait la musique était parfaitement à sa place, elle fonctionnait très bien, mais c'est au fil des ans, on s'est dit, mais en fait, tout le monde a été marqué par ce truc-là, et on n'a plus jamais vu de péplum sans avoir du Gabriel, on va dire, du Peter Gabriel.
C'est ça, il y a un usage de voix qui n'est pas un usage de soprano hollywoodienne, quoi. C'est une voix vraiment ethnique qui vient de, je sais pas, d'une femme d'un village en Afrique qui va chanter ça. Il y a des usages de percussion beaucoup plus. Et beaucoup, et pratiquement sans rien d'autre par moment, juste pour illustrer le film. Et c'est pas quelque chose qui se faisait vraiment à l'époque.
Non, on est en quelle année là?
88 ou
88, 9, ouais.
88, juste ouais. À, allez, on s'écoute d'ailleurs, vous avez ramené un morceau.
Juste après.
Juste après, ouais.
On va terminer l'émission avec Predator.
Ah, moi je suis prêt.
Allez, je lance un petit extrait.
L'ouverture, ça?
Non, c'est plutôt le final, ça.
Le final.
Ah, donc typiquement, les voix, là, c'est un truc qui vient d'Afrique du Nord, je sais pas quel pays.
C'est des yu-yu, là.
Ça a le défaut aussi de l'appellation world music, à savoir que c'est un peu fourre-tout, une vision exotique de l'ailleurs. On fout plein de trucs.
Oui, c'est ça.
C'est de l'ailleurs, puis voilà, quoi.
C'est l'exotisme vu de l'Occident, tu vois.
C'est un peu le défaut. Mais la démarche est, en tout cas.
Mais cela dit, l'exotisme, il a toujours été dans la musique de film, hein. On avait des choses dans les années 50, où quand ça se passait en Chine, il y avait une musique.
Oui.
Simili chinoise.
On voit les instruments.
Pas toujours de très très bon goût.
Ouais.
Il y a des choses très bien, il y a des choses un peu moins bien, quoi.
Mais en tout cas, peu importe comment on le juge, là, le fait, cette BO, en l'occurrence, elle marque un tournant et on se dit, on peut ouvrir à d'autres choses.
Elle fonctionne sur le film, ce qui est sa première fonction, encore une fois. Et surtout, elle permet au public de l'époque d'avoir l'impression de voir quelque chose de plus fidèle
à
la réalité de l'histoire du Christ, en fait.
Alors que tout est fantasmé,
Mais du coup, c'est vrai que ça va mettre un coup dur, notamment, je pense, au niveau du péplum, parce qu'on aura des années plus tard un truc comme Gladiator, par exemple.
Où il y a aussi des chants.
Voilà, qui tourne complètement le dos à la tradition Ben-Hur de Miklos Rosa, au Covadis et autres, pour vraiment être complètement dans la world music
avec des chants traditionnels, des trucs qu'on a aussi après dans La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott.
Voilà, tous les films qui se passent en Afrique du
Nord. Après, il y a des gens qui font des...
Il y a toujours une nana qui s'est coincé le pied sous son livre.
Voilà, et ça va finir d'ailleurs par venir dans Star Wars avec l'épisode 2.
Ouais.
Où il y a aussi une voix un peu nord-africaine comme ça, qui est pas à sa place en fait.
Est-ce que il y a encore un autre moment important?
L'autre moment, on l'a dit, hein, tu l'as cité, c'est effectivement l'arrivée de Zimmer sur la place.
Juste avant ça, peut-être, juste avant de Zimmer, et ce sera une partie en tant que telle sur la musique d'aujourd'hui, en fait, tout simplement musique de film d'aujourd'hui. sans s'arrêter dessus, mais citons aussi le fait que en parallèle, la musique pop, la musique électronique, le rap, etc., ça s'immisce aussi au cinéma à fond. On a plein de BO, parfois des compositions spécifiquement pour, etc. On peut pas tout traiter de toute façon. On reste plus là peut-être sur la musique plus symphonique, orchestrale, etc. Mais voilà, c'était juste pour signifier aussi qu'il y a plein d'autres propositions dont on n'a pas parlé, évidemment.
Et aussi le fait que la musique pop comme redécouvre la musique de film également, parce que le hip-hop par exemple va faire grand cas justement de la musique de Blaxploitation ou même des Inspecteurs Harry de Lalo Schifrin. Enfin, combien de fois l'Inspecteur Harry a été samplé, je compte même pas. On va avoir des chanteurs plus à midinette, on va dire, qui vont carrément reprendre des riffs entiers de John Barry pour les James Bond. Donc il y a une espèce de retour, tu vois. John Barry, il s'inspirait de la musique pop de son époque pour la rendre symphonique dans les Bond, et tout d'un coup les gens associent maintenant cette musique plus à James Bond
qu'au truc d'origine,
en fait, tu vois. Oui, je veux dire, Carpenter Brut, qui a carrément tiré son nom de la musique qui les influence, qui est la musique de Carpenter.
Parce que c'est marrant, tu disais que la musique de Carpenter, elle marche pas sur d'autres films, et qu'au final, elle a pas fait école de manière, en tout cas, avec succès, entre guillemets. Par contre, dans la musique traditionnelle,
ça a fait école, hors film.
C'est étonnant.
Donc c'est vrai que c'est toujours un terrain d'expérimentation. On n'a pas cité Danny Elfman, qui est, qui est quelqu'un qui a amené tout un tas de musique aussi, qui était
principalement avec Burton, du coup, Danny Elfman.
Entre autres, oui. Mais il a aussi, il a aussi cartonné très vite avec les Simpsons, avec des trucs comme ça, avec, qu'est-ce qu'il a eu comme autre succès hors Tim Burton, mais c'est vrai que c'est vrai.
Le Man in Black, il y en a des tonnes, quoi.
Et qui d'ailleurs, parce que c'est des gens aussi qui ont beaucoup compté pour la musique d'aujourd'hui, les Elfman, les Zimmer dont on parlera aussi, et qui d'ailleurs ils ont un truc commun tous les deux, c'est qu'ils étaient dans un groupe avant plus de pop, d'électropop, etc. Dans le cas de Zimmer, c'était The Buggles.
Parce qu'il est dans le clip, mais il est même pas sur l'enregistrement.
C'est vrai, il est pas sur l'enregistrement. Ouais. Mais par contre, il a participé quand même à des productions.
Il a fait de la programmation de synthé. Il a commencé comme ça, en fait.
Mais et pour Elfman,
Oui.
Mais pour dire que c'est aussi, enfin, la nature de la musique de film change aussi parce qu'il y a peut-être des cultures et des formations initiales différentes, j'imagine.
Oui, et il y a, enfin, on est très ouvert aujourd'hui, on peut venir de n'importe où et arriver à faire de la musique de film. Après, à chacun de juger si elle est pertinente ou pas sur le projet. Mais on a par exemple Trent Reznor et Atticus Ross qui viennent de Nine Inch Nails et qui font la musique des films de Fincher, par exemple.
Et rentrons dans le vif du sujet. Une petite dernière partie sur la musique de film aujourd'hui. Il va falloir que Rafik nous parle d'Hans Zimmer, qu'il adore.
Je peux te remplacer.
Il y a un tournant, en gros, qui s'opère. On est quoi? C'est quelles années à peu près? Et pourquoi c'est un tournant?
En fait, sur les années 80, déjà, il y a un truc technologique qui va pas mal impacter la musique de film. C'est le développement des bandes-sons, notamment des films hollywoodiens. Puisque donc, on revient à Star Wars, qui était en Dolby Stéréo. Donc le Dolby va se développer. Ensuite, on a le Dolby SR qui arrive avec Aliens, le retour. Et du coup, on a des bandes passantes de plus en plus dingues dans les films. Les techniciens de son s'en donnent à cœur joie. Les films se remplissent de tas de bruits nouveaux dans tous les coins, dans toutes les enceintes.
Les outils aussi changent. C'est-à-dire qu'il y a le moyen de diffusion, mais les outils de création sonore aussi évoluent. J'imagine que ça joue aussi.
Tout à fait. Mais là, je parlais de bande passante parce que tout d'un coup, t'as des graves hyper graves, t'as des aigus de complètement dingues qui permettent d'avoir. C'est le cinéma explosif de fin des années 80, début des années 90. Et du coup, la musique de film, là-dedans, dans ce bordel, elle a tendance un peu à disparaître. Tu avais encore au début des années 80 des compositions, je pense à une musique comme celle du film Dark Crystal par exemple, qui est une musique hyper subtile avec vraiment des transitions entre la flûte, le hautbois, mais Dark Crystal, s'il avait été fait quelques années plus tard, il y aurait eu beaucoup plus d'effets sonores et du coup le hautbois il disparaissait tu n'entendais plus du tout, et donc les compositeurs se retrouvent un peu en lutte avec ça. Et commence à privilégier certains instruments plus que d'autres. Et ça va beaucoup bénéficier justement à Zimmer, qui est parfaitement adapté à ces nouvelles bandes son. Et un des scores pour moi qui va lancer l'école Zimmer, c'est vraiment Days of Thunder, quoi, Jour de tonnerre, qui est un film c'est un film de course de bagnole, donc évidemment t'as un moteur dans les oreilles pendant tout.
Je me rappelle même pas de la musique de Days of Thunder.
Eh bien.
C'est
eh bien. Moi j'aime bien.
Ouais.
Zimmer m'a gêné dès son apparition. Hein. Vraiment, dès le début, j'ai dit mais c'est qui ce mec ? Et ça ne s'est pas amélioré avec les années.
Non, le problème Zimmer dépasse en fait Zimmer lui-même.
Il a été appelé par l'industrie.
C'est ça.
On a
c'est
besoin
ça.
D'un ouais. mec comme lui.
Il y a eu un appel d'air et il y avait un vide et il a rempli le vide. Mais il n'aurait pas été là, quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place. Donc c'est pas spécialement Zimmer qu'il faut blâmer. Mais plus toute l'industrie et la manière dont elle s'est développée, parce que on était à une époque, à la fin des années 90, où les producteurs traditionnels, qui sont des gens qui veulent faire du fric, clairement, c'est le but d'un producteur,
toujours
veulent faire du fric en faisant des bons films. Et là, on a changé de génération, et la génération suivante, ils veulent faire du fric, c'est tout.
Même
que ce soit
des
un bon film, un mauvais film, une série télé, un jeu vidéo, n'importe quoi, on s'en fout. Il faut faire de la thune, plus de thune. Plus de rentabilité, mais bon, la qualité du produit est pas très très importante.
Petit extrait de Days of Thunder, de Hans Zimmer, qui pour vous marque quand même un truc.
Je peux retirer mon casque. Non.
C'est le thème principal, ça en théorie.
Ouais.
Ça vous va?
Oui, très bien.
Je m'en rappelle absolument pas.
C'est Kitschouï, hein?
Ah oui.
Là, on est en 80.
Ah, c'est Zimmer,
hein. Days of
Thunder, c'est
91.
91.
Mon Predator 2.
On n'est pas très loin de ce que faisait Marauder et Walter Meyer à l'époque.
Ça, c'est gentil, le générique. Non, mais le truc, c'est qu'il y a de la musique dans le film, pendant les courses de bagnole. Et vraiment, il faut imaginer la bande-son, ça n'arrête pas. Hein. Le public qui crie, les moteurs qui rugissent et tout ça. Et tu entends la musique, en fait.
Ouais, donc ça sous-entend que...
Elle a beaucoup de synthé bien dans ta face.
Et donc, ça veut dire qu'il y a, en gros, si j'ai bien compris ton propos, c'est de dire les effets sonores prennent de plus en plus de place, notamment parce que pour les diffuser, on a de nouveaux moyens avec une large bande fréquence, etc., qui permet d'envoyer plein de sons. Ça veut dire que la musique, soit elle doit se faire toute petite où on l'entend à peine, soit à l'inverse, elle doit
couvrir
complètement dans la démesure, etc., et balancer du boom boom.
Et bah, clairement,
ou du point. Voilà.
Mais effectivement, les films de Michael Bay de la fin des années 90, tu
The
peux
Rock,
pas,
bien sûr.
Tu peux pas avoir. Je sais pas quel exemple, je sais pas, le John Williams de E.T. dont on parlait tout à l'heure, ou même des Indiana Jones sur The Rock.
Non, on l'entendrait pas en fait. Il faut des nouvelles sonorités, il faut une nouvelle manière de produire la musique aussi, parce que c'est surtout comme ça que ça fonctionne, par empilement. On a une composition mélodique, etc. C'est enregistré par un orchestre, hein, Zimmer ou pas, mais on rajoute derrière des percussions, des samples, on double les instruments de l'orchestre avec des parties samplées. Tout ça pour que ce soit plus massif, plus gras entre guillemets, et que ça s'entende mieux à l'écran. Donc ça c'est une des raisons effectivement. Et puis globalement.
Donc en fait c'est ça qu'on reproche à Zimmer, c'est ce côté un peu sandwich à la rillette quoi, un peu gras quoi.
Après
et en même temps il a compris où il atterrissait, il a compris quelles étaient les nécessités de l'industrie. Il a eu l'intelligence aussi de s'entourer de tas de compositeurs, parce que il faut le dire, hein, les partitions de Zimmer sont les années 90. Enfin, Zimmer était là un 25e du temps, quoi.
Je veux dire, non. Bon, c'est des années 2000 ou 2010 aussi, hein.
Ils sont une vingtaine à bosser, et comment dire, ils rendent service. Parce qu'il faut savoir aussi que les films, c'est toujours des prototypes. Tout le monde est paniqué. On sait jamais ce qu'il faut faire. Il y a des changements de dernière minute et tout ça. Quand tu composes une partition orchestrale à l'ancienne, et que tu as une session d'enregistrement avec le London Symphony Orchestra qui coûte la peau des fesses, c'est compliqué de changer à la dernière
c'est
minute,
moins
3 secondes,
ouais,
quoi. Alors qu'avec Zimmer, tu coupes là, boum, c'est réglé.
Oui, c'est une musique qui est structurellement beaucoup plus simple que, par exemple, ce que fait John Williams à la même époque. Et du coup, c'est plus facile à monter, c'est plus facile à couper, à...
C'est plus malléable,
alors,
en fait.
Oui, et puis, globalement, c'est une musique nettement plus simple. Donc,
qu'est-ce que tu entends par musique plus simple? C'est-à-dire qu'il y a moins de changements, par exemple, au sein d'un même morceau?
Oui, il y a moins de contrepoints. Et surtout,
la
musique est vraiment pensée pour qu'on enlève trois mesures, ça s'entend pas. Si tu fais la même chose, moi j'ai fait l'expérience en remontant de la musique, si tu fais la même chose sur Williams, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. C'est presque impossible de faire le joint déjà, alors qu'avec Zimmer tu le fais mais comme tu veux, c'est super facile.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une culture de la boucle, de la loupe qui dans la musique de manière générale, hors cinéma, et s'impose aussi à ce moment-là.
Elle s'impose sur le cinéma, mais c'est plus pour des questions de timing, en fait. C'est que ça va beaucoup plus vite de faire ça pour une scène qui est encore en montage, qui est encore en perpétuel changement. On sait pas au final combien elle va durer. Faisons une boucle. Mais vous mettrez ce que vous voudrez.
Est-ce que d'une certaine manière, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais est-ce que c'est pas un moyen aussi de rester connecté au public d'aujourd'hui et de prendre des codes de la musique populaire qui aide aussi dans la boucle, etc.
Oui, en même temps, il y a toujours cette idée de, on donne au public ce qu'il veut et en même temps, est-ce que le public ne réagirait pas mieux s'il était surpris, tu vois, c'est toujours un débat. Il faut savoir aussi que dans les années 90, il y a une mode, enfin, ça existait déjà avant, mais vraiment, ça explose dans les années 90, qui était le remplacement de dernière minute des compositeurs. On a eu une série de partitions qui ont été foutues à la poubelle, mais comme jamais on en avait vu dans l'histoire hollywoodienne. Et parfois, c'était des grands. Hein, on a cité Elmer Bernstein. Il s'est fait refuser des musiques. John Barry s'est fait refuser des musiques.
Jerry Goldsmith
s'est fait refuser des musiques. Ils ont tous connu cette expérience-là, parce qu'en fait, les producteurs exécutifs testaient leurs films sur des publics. Et quand ça marchait pas, ils faisaient un calcul très simple. On peut pas retourner cette scène. Ça nous côté bonbon, on peut rien changer à ce niveau-là, on va pas réécrire le scénario qui est a priori le vrai problème. Par contre, on peut changer la musique.
Donc c'est dur, hein.
C'est pragmatique.
Donc tu virais le mec qui a bossé 3 mois sur le film et tu en prenais un en lui disant t'as 5 jours pour nous faire une nouvelle partition, quoi.
Voilà, alors que le problème venait pas initialement évidemment. Du tout de la musique.
Évidemment. Et quand t'écoutes, c'était quoi que tu nous avais fait découvrir là, d'Elmer Bernstein, le film The Scarlet Letter, c'est ça, le film, la musique que Bernstein avait composée, c'est carrément magnifique, quoi. Enfin, par rapport à la merde qu'on a eu au final, que c'est John Barry qui a fait le remplacement. Il a fait ça un matin, vite fait, tu vois, sur un coin de table. Au moins il me paye. Mais bref. Et alors que justement avec l'usine Zimmer, parce que ça, vraiment c'est Media Venture dans les années 90, donc c'est la boîte de Zimmer, c'est une véritable usine, ça tourne à plein régime jour et nuit. Les changements de dernière minute, c'est eux-mêmes qui vont s'en charger et ça te sera rendu dans l'après-midi, quoi. Donc
c'est un peu ça. C'est en fait des raisons beaucoup techniques qui font que Zimmer a eu un tel succès. C'est que
c'est un côté industriel et il est sympa.
Et il est sympa et aussi très très psychologue.
Il est sympa, il a des concepts, à défaut de savoir les mettre en application, il a des idées.
Il sait très très bien gérer les réalisateurs. C'est un mec très psychologue. Les réalisateurs sont des mecs flippés et en même temps avec un ego surdimensionné, ils veulent pas avoir la sensation que quelqu'un leur retire le crédit sur leur film et tout. Et lui, il sait parfaitement jouer de ça. Comment s'appelle le réalisateur de As Good As It Gets, c'est Brooks, hein, c'est ça.
Ouais,
il le dit clairement dans le livret de l'album, quoi. Il dit ça a été mon psychothérapeute pendant toute la durée du film, quoi. Donc c'est un mec qui est présent, il t'écoute, il dit jamais non. Quand tu sens que sa mère, il fait t'inquiète pas, on va s'en sortir tous ensemble, on va se relever les manches. Voilà, il y a une raison pour laquelle le mec s'est installé partout, quoi.
D'ailleurs, Olivier, toi, tu es venu avec un morceau dans Zimmer sur la BO de Dark Knight. Pourquoi tu as choisi ce morceau? On va se l'écouter, hein. Parce que justement, c'est un truc qui, à peu près, à grâce à est bon pour du Zimmer, ou au contraire, ça démontre tout ce que t'aimes pas chez Zimmer?
Non, ça va, j'aime bien. Graphique, n'aime pas, j'imagine.
Pas du tout, mais
non, j'aime bien. Après,
parce que là, on est dur depuis tout à l'heure, quand même. Est-ce qu'il y a quand même un intérêt, ce type? Mais ça marche, c'est sympa.
On est dur, mais la réponse populaire.
Ben voilà,
ça fonctionne en fait. Hein.
C'est ça, mais aussi parce qu'il est très très mis en avant. Forcément, quand tu prends quelqu'un et que tu dis on va en faire une star, et lui c'est ce qu'il voulait, hein. Je veux dire, il a commencé avec les Buggles, c'était pas par hasard, il a apparemment percé dans la pop dans les années 80, mais il est une rockstar maintenant.
Ouais.
Et d'ailleurs, il se fout complètement de bosser sur des films aujourd'hui, la priorité c'est quand même de faire des tournées.
Ouais.
D'être en contact avec le public, ouais. De jouer en live, etc. Même si en fait il joue pas, puisque tout est en playback.
Ah ouais?
Ouais. Même le piano, il le joue pas.
Ah ouais.
C'est du playback parce qu'il arrive pas à être super juste.
Ah merde.
Bon. À la limite, ça n'est pas un instrumentiste, c'est un compositeur.
Ouais, ouais.
Son travail n'est pas de jouer des instruments.
Oui, pour être délégué, mais quand même. Faire semblant, quoi. Bref. Ok, The Dark Knight, A Watchful Guardian, 2008, Hans Zimmer.
J'avais pas encore pris le virage du point-point un peu énervé. crois, parce que là, c'est
pas encore.
Ça pourrait être Armageddon, ça pourrait être, tu vois.
Tu veux qu'on mette Inception, c'est ça?
Ah,
tu veux
du point-point? Le point, parce que c'est vraiment le truc début des années 2000, bah 2010, Inception 2010, en plus, ouais. Où vraiment, en termes de sonorité, là, d'un seul coup, on fait « Ah ouais, ok !»
En fait, je pense que le truc dont la plupart des gens se souviennent dans Inception, c'est pas Zimmer. C'est la musique de la bande-annonce qui avait été faite par un autre gars qui s'appelle Zach Hemsey.
Okay. Ah ouais,
je sais plus comment s'appelle le morceau, mais c'est très très Inception en fait.
C'est pas Zimmer. Moi c'était Time.
Bah là je vois, en tout cas tu vois, je me disais c'est quel morceau. Je vais sur Spotify la BO Inception. Il y a un morceau qui
288 millions d'écoutes.
Ouais. Milliards même. Non, millions, pardon, je dis n'importe quoi. Ouais. Oui, 280 milliards, pourquoi. Mais oui, alors que les autres, c'est 2000, 5000, 10000, 20000 éventuellement. Là, c'est 280 millions.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est pas mal. On en a pas autant avec Total Tracks, hein.
Parce que
c'est là où il y a les points-points, ouais.
Mais au début, c'est très lent. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est tellement bas que quand tu l'écoutes en voiture, tu l'entends pas. C'est-à-dire que t'entends le morceau au bout d'une minute 30 quand même.
Oui, mais dans le film, c'est pareil.
Ouais.
Sur les points-points ou pas?
Vas-y, attends. Ouais, non.
En vrai, ça se trouve, c'est pas là où il y a les points-points.
Si. Ah, là, ça, à la fin de cette... Là, il installe, mais il installe pendant la moitié du morceau, quand même. Hein. En fait, il rajoute une couche à chaque... À chaque bout. Là, les points ils sont là.
Oui. C'est pas forcément là. Ça se trouve, c'est plutôt le trailer.
Le trailer avait l'espèce de coup.
Ah oui, il y avait vraiment beaucoup de points-points. Ouais.
Comment on appelle ça?
On appelle ça des points-points.
Une corne de brume.
Ouais.
Quelqu'un avait fait une magnifique vidéo avec un chat d'ailleurs sur cette musique.
Tout à fait. Inception 4.
Inception 4.
Si vous cherchez ça sur YouTube, vous allez le trouver. C'est assez magique.
Et tu auras la musique en même temps.
Pour pas bloquer sur Zimmer, ça donne quoi derrière? C'est quoi le panorama aujourd'hui des propositions? Quels sont les compositeurs qui sortent un peu du lot, ou du moins qu'on retrouve beaucoup hormis Zimmer? Et est-ce que par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se revendiquent de John Williams aujourd'hui. Il y a pas que Zimmer.
Williams déjà est encore actif.
Voilà. Et puis il y en a un qui effectivement a été plus ou moins adoubé par Williams dès ses débuts dans le jeu vidéo, même pas au cinéma, c'est Michael Giacchino, donc qui avait fait la musique du jeu vidéo adapté de Jurassic Park numéro 2, si je ne m'abuse, qui ensuite a fait Medal of Honor, à peu près à même moment où il y avait où John Williams faisait Il faut sauver le soldat Ryan, donc ouais. Musicalement ça se voulait un peu dans la même tradition, et Giacchino, bah c'est quelqu'un qui fonctionne un peu à l'ancienne. Avec des thèmes très identifiables. Genre, je sais pas si...
C'est lui sur Super 8 ou j'ai une connerie?
C'est lui qui a fait Super 8 aussi, ouais. On se posait la question de savoir quel rôle la musique doit jouer aujourd'hui dans un film. Moi, je pense que pour donner une identité au film, c'est important. La musique de là-haut, par exemple, le Pixar...
Incroyable.
Voilà.
C'est qui?
C'est Giacchino. Voilà. Et ben ce thème simple, effectivement, tu l'associes immédiatement aux images. T'as déjà la larme à l'œil.
La partie, ouais.
Voilà. Les fameuses 10 minutes d'ouverture qui sont portées que par la musique.
Incroyable.
Là, si t'avais pas eu ce morceau de Giacchino sur cette séquence d'ouverture, ça aurait peut-être pas été aussi fort, même si la séquence est vraiment, vraiment très très forte. Mais une fois que t'as vu ça et entendu cette musique, c'est fini. L'association, elle est faite à vie, quoi. Et quand John Williams fait le thème d'Harry Potter, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment tiré mon chapeau parce que à la fin des années 90, je me disais, John, le mec, il t'a fourni un nombre incalculable de thèmes emblématiques pendant toute sa carrière. Au bout d'un moment, tu peux pas te renouveler. T'es obligé de tourner, de faire de sur place, de tourner en rond. Et donc, je m'attendais plus du tout à ce qu'il fasse quoi que ce soit après Indiana Jones, après Superman, après Les Dents de la Mer, après la liste est infinie. Et quand j'achète J'avais pas encore vu le film, mais j'achète l'album d'Harry Potter. Je mets le morceau d'ouverture. Je fais, mais c'est pas possible.
Comment il a refait?
Parce que même sans avoir vu le film, je savais que le mec, il avait mis le doigt sur le thème qui allait immédiatement être associé à ce personnage. Alors que c'est même pas le thème d'Harry Potter, c'est le thème de Edwige, le thème le plus célèbre, enfin, qui ouvre le film. Mais il est tellement associé à cet univers. Donc, c'est un truc important, quoi. Je pense, dans le rapport à la musique de film.
Alors, justement, parlons du le thème. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière ce que vous reprochez à Zimmer, c'est qu'il y a rarement des thèmes en réalité, j'ai l'impression.
C'est pas que Zimmer. Il y en a, mais ils sont.
Est-ce que c'est une nécessité le thème d'ailleurs après tout? C'est en gros ce pattern, ce motif mélodique qui permet tout de suite d'identifier le truc, quoi.
C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure. Un thème suffisamment identifiable, le thème d'Harry Potter va rester dans Harry Potter. Va immédiatement suggérer le film, l'univers à des gens qui ont vu ça une fois. Ça reste en tête et ça devient quelque chose qui fait partie intégrante de l'univers d'Harry Potter. Et un thème vraiment bien pensé, bien construit, bien écrit peut devenir une extension comme ça d'un film. Prends au hasard le thème de Retour à le futur, par exemple.
Pensais justement. C'est qui Retour à le futur?
C'est Alan Silvestri.
D'accord.
Qui a fait la musique d'un film qui s'appelait Predator, que tu devrais regarder.
Allez, c'est bon. C'est pour maintenant.
Tout à fait.
Ça marche.
Ah, c'est Silvestri Predator.
Et donc, c'est important d'avoir un thème, justement, parce que ça, quelque part, ça termine le film. Ça lui donne une patine en plus unique. Qui n'appartient qu'à lui.
Ouais, c'est la finition vraiment.
Un film qui a un thème interchangeable, ça devient quelque part, par réaction, un film interchangeable aussi.
Bon, on s'écoute un passage de Predator, Alan Silvestri, juste pour Daz, allez.
Je pense qu'il faut, là, depuis le temps.
Alors, est-ce que c'est bien le Predator original ou.
Predator main title, ça me semble pas mal, hein.
Normalement, ça doit commencer, si j'en crois, cette émission, comme King Kong.
Ça doit commencer. Attends.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ils sont dans la jungle avec le matériel.
Ah, ça c'est un sourire, ça.
Ouais, mais parce que justement, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu montes des images de Predator sans la musique. Ouais, ok, c'est Predator, on s'en fout. Mais tu montes ça, c'est l'interprétation que moi j'en ai et ce que je retiens, les feuilles des arbres qui bougent avec les arbres qui frottent.
Ça, ok, les gars. Je comprends qu'on valorise le fait qu'il y ait un thème fort, qu'on identifie facilement, etc. Ça reste dans les esprits, c'est fort. Ok, rien à dire. Mais on le disait en début d'émission. Ça reste de la musique. La musique est là pour servir le film. Elle a pas forcément vocation à vivre sa vie en parallèle, absolument, à être si forte, etc. Est-ce que ça permet de juger de la qualité, franchement, de la musique d'aujourd'hui, par exemple, du fait qu'il y ait moins de thèmes ou...
Bah, disons que du coup, quand on enlève le thème, y a beaucoup de musiques qui se ressemblent et qui sont littéralement, pour le coup, interchangeables. Mmh. Moi, j'entends des choses, j'écoute beaucoup, beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui, et il y a des albums. Parfois, j'enchaîne les albums de films différents. Et
tu vois pas la transition.
Et je vois pas la transition. Je sais pas que j'ai changé.
Ah ouais.
Tu prends une musique, tu la mets sur un autre film, ça marche plus ou moins bien, mais ça marche. Mais parce que c'est une musique qui a pas été faite avec plus que nécessaire d'adéquation au film en fait.
Mais il faut
ça devient générique.
Que l'industrie actuelle réclame ça, c'est-à-dire qu'on demande à la musique de ne pas être trop identifiable et trop
parlant,
ce qui est complètement fou.
Pour quelle raison?
Parce qu'il y a une forme de peur du ridicule, étrangement, alors que tu te dis, mais tous les gens qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui, ils ont grandi avec des films comme, je sais pas moi, Edouard Domain d'Argent, ou tu te dis, mais les gars, le thème d'Edouard Domain d'Argent, il est juste dans ta face, quoi. Tu peux pas sortir de la salle sans l'avoir en tête, en boucle, quoi. Mais effectivement, il y a un côté, si la musique s'entend, ça va gêner. Et en même temps, si on met pas de musique,
ça va gêner
parce que les gens vont réaliser qu'il y a pas de musique.
C'est ça. Donc on met une musique qui ne s'entend pas, mais qui est là.
Donc ce que on appelle de la tapisserie. Ouais, et effectivement, aujourd'hui, t'as des tapisseries de 2 heures sur des films de 2 heures. Ça sert pas à grand chose, quoi.
Vous avez des exemples marquants? Enfin, du coup, le fait que ça soit marquant, c'est que ça n'est pas.
Ça n'est pas. Ouais.
Oui, du coup, c'est dur. Ouais. Non, mais j'avais dire tellement de choses. Alors, on parle de films, mais on parle de séries télé aussi.
Séries télé. Ouais. Oui, ma compagne regarde beaucoup de séries policières.
Plein de séries.
Moi, je les vois pas. Je les entends.
On les entend seulement. Voilà. Ouais.
Et j'entends effectivement des notes, des nappes de synthé sur 3, 4, 5 minutes, qui avec 2, 3 variations. De temps en temps, mais effectivement, ce qui sont complètement interchangeables. Quoi.
Et pourtant, on peut pas blâmer les compositeurs parce que ça veut pas dire que c'est pas des gens qui ont des capacités. C'est des gens qu'on laisse pas faire.
Ouais.
Et ça, je le sais parce que j'ai des amis dans le métier qui me racontent un peu en détail comment ça se passe. On les laisse pas faire.
Non, il y a trop de contrôle.
Il faut un thème à trois notes, on va dire, il y a trop de notes. Il faut enlever ça. Il y a trop d'instruments.
Toujours avec cette idée qu'il faut laisser de la place aux effets sonores aussi dans le film. C'est toujours valable aujourd'hui.
Mais même pas forcément, en fait.
Non, non, c'est une crainte.
Il y a une peur de perdre le contrôle du film quand on est réalisateur. Et le pire ennemi, quelque part, c'est le compositeur de la musique originale.
C'est celui qui peut rivaliser un peu.
Mais c'est paradoxal, ouais.
Mais il y a une vraie méfiance. Et puis en plus, il y a une complexité à dialoguer entre un réalisateur et un compositeur qui est parfois assez dense, parce que le réalisateur s'imagine que le compositeur ne parle que en langage musical. Alors qu'en fait, non, tu peux lui parler normalement, il va comprendre.
Mais surtout quand lui-même ne maîtrise pas le langage musical et essaye de s'exprimer dans un langage qu'il ne maîtrise pas, c'est encore pire pour la compréhension.
C'est ça, et les compositeurs, en général, leur disent « Non, mais laisse, dis-moi ce que tu veux exactement, ouais. et pas besoin de parler de musique, pas besoin de parler de notes, d'instruments, dis-moi l'impression que tu veux, dis-moi ce que tu veux que la scène dégage, et je te le ferai. Il n'y a pas besoin de plus, c'est mon métier. » Mais c'est compliqué, ce dialogue-là, il est très très complexe dans certains cas.
Il y a un conflit d'ego de toute façon qui rentre en jeu, qui a toujours été présent dans l'histoire du cinéma. On a un exemple célèbre avec un couple réalisateur-compositeur qui se comprenait parfaitement, justement, qui se complétait parfaitement, qui était Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann. Et donc on fait des merveilles ensemble. Sauf que à partir de Psychose, on a commencé à voir dans la critique des tas d'articles qui insistaient sur l'importance de la musique, et certains qui disaient vous virez la musique, il n'y a plus rien.
Ce qui est vrai.
Ce qui parfois est vrai, effectivement, ouais. Il y a des scènes de Psychose où juste elle est en train de conduire sa voiture sous la pluie, il se passe que dalle, mais par contre, la musique d'Herrmann, elle te raconte 10 000 choses qui font qu'on soupçonne que Hitchcock, à ce moment-là, il commençait à grincer des dents, quoi. Et il a fini par faire des sales coups à Bernard Herrmann et à se séparer de lui brutalement, alors que ils étaient indissociables, quoi.
Après, Hitchcock aussi, c'était un connard, on peut le dire. il a quand même une réputation.
Ah ouais, humainement, c'était pas.
Ah ouais, c'est un sale con. Là, aujourd'hui, il aurait pas eu la carrière qu'il a eue. C'était pas possible.
Et aujourd'hui, il aurait été outé déjà par toutes ses actrices. Mais...
déjà, de base.
Ouais, ça c'est clair. Ouais.
Mais voilà, il y a ce conflit d'ego, le manque de confiance, voilà, que les réalisateurs peuvent porter aux compositeurs. Soit ils ont peur que le mec leur vole la vedette, soit ils lui font pas confiance.
Et d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent, c'est pourquoi tu m'as embauché si tu me fais pas confiance? Pourquoi tu m'as choisi si tu me laisses pas travailler? En gros, le conseil au réalisateur, c'est ça, c'est laisser le compositeur travailler. Vous avez entendu sa musique ailleurs, ça vous a plu, laissez-le faire le boulot et vous allez être surpris, mais agréablement.
Et parfois aux larmes, mais c'est George Lucas qui raconte ça, parce que le tournage de Star Wars, ça a été un cauchemar absolu. Il a quasiment failli crever. La veille, il était à l'hôpital parce qu'il s'était aperçu que les effets spéciaux étaient pas prêts. Il y avait absolument rien alors que le film sortait dans un mois. Une catastrophe totale, quoi. Et le mec, il a eu un malaise, il a été obligé d'être hospitalisé. Il sort de là, il repart à Londres pour assister aux sessions d'enregistrement. Et il a toujours dit, il a dit, c'est le seul moment de ces trois ans où je me suis dit, tout n'est pas perdu. Parce que le mec arrive, déprimé, tout est foutu pour lui. Et tout d'un coup, il voit les images de son film, il entend la musique de Williams dessus, il fait...
c'est à moi, ça.
Et tout d'un coup, il dit, mais c'est le film auquel je pensais il y a trois ans, tu vois, c'était ça. Donc ça peut être ton meilleur allié.
Voilà, mais ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut faire de l'orchestre tout le temps, de Williams tout le temps. Il faut laisser, évidemment, le réalisateur choisir le style musical qu'il veut, mais il faut aussi laisser au compositeur l'option de suggérer ce que lui pense qui est adapté au film. Parfois ça va être de l'orchestre, parfois ça va être un piano, parfois ça va être des effets sonores, mais il faut renforcer le dialogue. Le dialogue est complètement inexistant aujourd'hui entre la partie prod réalisation et la partie musique. La plupart du temps, il y a des exceptions, il y a des couples qui fonctionnent très bien, mais c'est plus du tout la majorité qu'on a eu à une époque. Et c'est un vrai problème, je pense, dans la mise en musique des films en 2023.
Après, on a toujours des parce qu'on parle des artistes qui savent s'entourer, ou alors qui arrivent avec de la musique orchestrale, ou alors avec de la musique synthétique. On a des artistes comme Thomas Newman qui, lui, en fait, il fait toujours la même chose finalement, mais ça marche bien. Que ça soit sur American Beauty ou sur Les Évadés ou sur Les Sentiers de la Perdition, le petit piano minimaliste.
Oui, il fait du Thomas Newman, qui est un style qu'il a lui-même inventé.
Ça, c'est vrai.
Et on n'est pas tellement sorti plus que ça. Il maîtrise le truc à peu près la perfection. C'est son bébé à lui. Mais c'est vrai qu'il s'est pas tellement foulé finalement.
Mais ça marche ultra bien.
Mais comment on le prend pour faire ça? Ouais. Pour reproduire ce son qu'il a inventé sur American Beauty, effectivement, pourquoi en faire plus?
Ouais, c'est vrai.
Mais il est parfaitement capable de faire autre chose. C'est ça le pire, c'est qu'il a, il a une vraie technique orchestrale à côté.
On a évoqué tout à l'heure Giacchino, Zimmer,
Silvestri.
Alors Silvestri, c'est pas vraiment la nouvelle génération.
Non, je pensais pas vraiment. Il est encore actif, mais il commence à être vieux.
Je pensais à une nouvelle génération. Qui d'autre on pourrait
Daniel
évoquer?
Daniel Pemberton, qui avait fait entre autres les musiques de certains films de Guy Ritchie assez récents comme King Arthur, et qui est un mec vraiment inventif, qui va pour le coup combiner des choses un peu rock avec de l'orchestre, avec du synthé, avec du jazz. Il mélange un peu tout ça et ça marche souvent bien. C'est très très pertinent sur les films, en fait.
Rappelle son nom.
Pemberton.
Ben on a Alexandre Desplat.
On a Desplat qui est plus traditionnel pour le
traditionnel,
coup.
Traditionnel, ouais.
J'ai bien aimé.
C'est un son français.
Qui est pas jeune, mais qui mine de rien incarne un peu quand même un renouveau, effectivement une nouvelle génération.
Alors le film, il est plutôt récent, mais sur Zero Dark Thirty, ça marche archi bien hein, de Catherine Bigelow. Franchement, moi j'ai bien aimé la partition.
Oui, puis il sait tout faire, Desplat. En plus, il est pas juste limité aux grandes partitions un peu romantiques auxquelles on le rattache. Il est aussi capable de faire du synthé ou des choses comme ça.
Je sais plus si c'est avec lui, mais j'ai vu une interview il y a pas longtemps d'un mec qui est plus très, enfin, de toute façon, il peut plus être actif, de Dick Rivers, je crois. Vous voyez, Dick Rivers.
Il est pas mort, Dick Rivers.
Je crois qu'il est mort depuis, mais c'est une vieille interview. Et sur un de ses albums, je crois qu'il a bossé avec Desplat, ou alors c'est une autre star
Desplat, il a fait
de la pop. En fait, il est passé avant sa grosse carrière.
Il a orchestré Oh mon bateau dans les années 80.
Moreno. C'est Desplat qui a fait ça.
C'est Desplat.
Ouais. Et il a fait plein de trucs étonnants, varioche en fait, variété, tu vois.
Il a commencé à Canal Plus. Il a fait son premier film, c'est la musique d'un film qui s'appelle Le Tronc. Réalisé par Carl Zero.
Oh la vache.
C'était pas Dick Rivers, c'était Carl Zero que j'ai vu en fait en interview et qui disait ça. Absolument. Voilà. Pardon.
Quand je bossais à la Fnac, ils m'ont saboté un truc parce que je m'étais arrangé pour que Desplat vienne dédicacer un album c'était vraiment encore un mec qui n'était connu que des collectionneurs à ses débuts quoi. Et en fait, le magasin m'a complètement saboté mon truc et j'ai jamais pu. Que Desplat était d'accord pour venir et je l'en quand il a eu. Son Oscar, là, je me suis fait un plaisir de le rappeler.
Il aurait pu me rappeler
il y a 20 ans.
Et d'ailleurs, pour clôturer le sujet Carl Zero, sur cet album, donc il a Desplat avec lui, puis il a aussi Henri Salvador. Enfin, tu vois, le mec avait réussi à faire des trucs assez incroyables. Il a un featuring avec Henri Salvador. Quelle honte.
Et dans la possibilité justement de renouveler les choses, moi je sais que j'avais été très impressionné en 2006-7, ça commence à dater, par une série télé qui s'appelait Battlestar Galactica, qui était un reboot de la série des années 70. Et là tout d'un coup
Bear McCreary arrive. Il sort de nulle part. Il a étudié avec des compositeurs traditionnels, mais il sort de nulle part. Il était assistant en fait sur le pilote de la série qui était mis en musique par un autre gars qui a pas pu revenir. Il se retrouve en charge de la musique et il fait un truc minimaliste avec
justement un peu à la Peter Gabriel,
avec des percussions, beaucoup de percussions
et pas mal de voix féminines sorties de la dernière tentation du Christ. Et ça fonctionne du feu de Dieu.
On s'écoute un extrait
Allez.
Le titre principal de Battlestar Galactica.
44 secondes,
Bear McCreary.
Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais oublié.
Là, c'est d'ailleurs son épouse qui fait la voix.
Ouais.
Il y a les percus juste après, hein.
Voilà. En fait, le côté. Les voix aériennes et tout, en fait, ça évoquait, enfin, ça présupposait la direction de la série, parce que à la fin, ça part vraiment ésotérique
Mais en même temps, ça collait bien avec les vaisseaux que tu vois décoller au loin dans le ciel.
D'ailleurs, c'est une ambiance qui m'évoque le générique, vous savez, du truc produit par Ridley Scott, là.
Raised by Wolves.
Exactement.
J'ai pas vu ça.
Et le générique a cet esprit-là aussi, tu sais, très presque ésotérique, effectivement.
Chant
lointain, religieux. Et ça colle avec la série, mais qui a aussi un côté futuriste.
Et ben ça, c'est un truc qu'aurait jamais pu passer le cap justement de producteur exécutif comme on en a un peu trop, quoi, parce qu'il faut laisser la liberté justement au mec de risquer la chose. Non, je vais pas vous faire de John Williams, on va essayer complètement autre chose et je vous garantis que ça va fonctionner, faites-moi confiance.
Voilà, sachant que le compositeur n'est pas quelqu'un qui est buté dans son coin et qui veut plus bouger après, enfin, la plupart du temps c'est des gens très faciles d'abord qui vont faire tout ce qu'il faut pour que la production et le réalisateur soient contents. Mais il faut leur laisser faire le premier pas et proposer quelque chose qui pourrait éventuellement séduire une équipe qui au départ n'a pas du tout pensé à cette approche musicale là. C'est ça qu'on essaie de dire en fait.
Qu'est-ce que vous pensez?
Je sais pas si vous êtes écouté par des réalisateurs d'ailleurs, mais
c'est une bonne question.
Ils sont freelance ou pas? C'est tout ce qui nous on touche les freelance.
S'ils sont amateurs de musique, il y a des chances qu'ils connaissent Delta.
Ça serait chouette.
Et, petite question juste, et peut-être qu'on terminera là-dessus. Est-ce que des gens, parce qu'ils sont très demandés à Hollywood, je le sais, comme Trent Reznor, on l'a évoqué, comme un Junkie XL même sur Mad Max Fury Road, des choses comme ça. Est-ce que des gens qui viennent d'ailleurs plutôt de la scène rock, musique électronique, etc., à vos yeux, c'est aussi des bons compositeurs de musique de film?
Moi, je dirais que ils peuvent être très utiles pour amener des concepts de la nouveauté sonore. Après, il y a un compositeur aguerri de musique de film. Il a à sa disposition des techniques auxquelles un compositeur de scène n'aurait pas pensé. Justement, comment tu passes en une demi-mesure de la mélancolie à l'action trépidante. Ça, Korngold, il savait le faire dès les années 30. Les films d'Errol Flynn, c'est hallucinant de voir comment là très très vite, en deux secondes, t'es passé d'une émotion à l'autre parce que justement la musique t'a permis de le faire très très rapidement. Et ça, c'est, je suis pas musicien encore une fois, mais je pense que les mecs, ils ont à leur disposition des trucs, oui, et astuces et qui leur permettent vraiment de très très vite jouer avec, parce que c'est, faut le dire, hein, ça reste quand même de la manipulation émotionnelle de tout ça. Alors que un Trent Reznor, et d'ailleurs je pense qu'un mec comme David Fincher, qui est quelqu'un de très cérébral, il se tourne vers Reznor justement pour ce caractère cérébral. C'est pas forcément une musique qui va te booster émotionnellement comme Predator peut le faire. dès l'ouverture du film, t'as envie de prendre une mitraillette et de les suivre dans la jungle, c'est évident, quoi.
C'est vrai.
Voilà, donc ces compositeurs, je dirais traditionnels de musique de film, il faut pas leur oublier que ben ils ont l'expérience de la narration cinématographique.
Olivier, toi, quel est ton rapport à un Trent Reznor ou un Junkie XL, ces gens qui viennent d'une autre culture
musicale? Ça dépend
musicale.
Des projets. Ça peut apporter un peu de neuf. Le problème souvent, c'est que ils arrivent un petit peu par la petite porte à Hollywood, qui font un ou deux films où ils essayent vraiment de faire des choses un peu différentes.
Ou un Clint Mansell aussi.
Et après, Clint Mansell, c'est encore autre chose. Ouais. Mais une fois qu'ils commencent à être un peu institutionnalisés, ça n'évolue plus. Et ils font plus ou moins toujours la même chose. Après, il y a des gens, un mec qui est intéressant, c'est Ludwig Göransson, par exemple, qui avait fait Mandalorian et qui il a pas que des chefs-d'œuvre à son actif, mais il essaye des choses qui ont jamais été faites avant. Des combinaisons, des approches thématiques qu'on pensait usées depuis des décennies et qu'il arrive à redynamiser en faisant ça un peu différemment à sa manière. Quoi.
Bah sur The Mandalorian, la grande force du truc, c'est d'avoir repris les codes de Morricone et du western spaghetti, en fait. Et ça marche
trop. Des séries des années 90.
Alors il y a ça, mais le thème, c'est surtout le Rocky de Bill Conti, en fait.
Ça, je savais pas. On écoute les deux, juste pour voir, pour comparer, parce que tu disais ça, effectivement. Attends, est-ce que c'est ça le morceau, Going the Distance?
Oui, ça peut.
Ça démarre pareil.
Ça peut.
C'est les mêmes notes.
Mais c'est pas la même thématique, hein. Mais c'est assez proche en termes de...
Bah à fond.
D'orchestration, en fait.
C'est complètement ça.
J'avoue, ça ressemble beaucoup. Alors que donc...
Donc là, c'est de l'hommage, hein. C'est pas de la copie. C'est
Et alors que The Mandalorian, ça donne donc ça.
Il y a eu le ding du début, là. Encore.
C'est surtout le pom-pom-pom-pom après.
Ouais. C'est ça, c'est pareil.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes. De famille, ouais.
Et similitudes. Ah ouais.
Alors, c'est quoi, c'est à mon tour de vous poser une question. C'est quoi la différence entre l'hommage et le plagiat?
Ouais, je sais pas.
très compliqué.
Il faudrait demander ça à un juriste surtout, parce que moi, la loi le définit.
Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être juriste. Hein. Le mal, c'est quand on aime, le plagiat, c'est quand on n'aime pas. c'est plus simple.
Oui, c'est vrai.
Mais j'en sais rien en réalité.
Oui, quand c'est un plagiat, c'est que ça nous plaît pas.
Ouais. On doit depuis longtemps faire un épisode de Total Track sur le sujet, qu'on a toujours
et
pas réussi
à
tourner.
Non, mais en fait, il y a même des cœurs de métier où ça, la question se pose pas. Par exemple, dans le jeu vidéo, il est même pas question de plagiat. On sait qu'un jeu vidéo qui sort et qui propose un concept, il va être repris à l'infini derrière. C'est normal, c'est la vie en fait. Dans l'absolu, ça veut dire que le milieu reste vivant.
Oui, mais c'est valable en musique d'ailleurs, parce que finalement une génération s'inspire toujours de la précédente.
Oui, en oubliant qu'elle existe. C'est ça qui est intéressant aussi, ou en omettant qu'elle existe. Tu vois, les jeunes d'aujourd'hui vont dire, ils vont faire un truc qu'on a déjà entendu à 20 ans en disant, mais nous on appelle ça Soundcore Wave. Ouais, ok, d'accord, cool. Chez nous c'était du folk en fait. Et c'est marrant, en fait, c'est parce qu'il faut garder en tête que les artistes d'aujourd'hui n'ont pas forcément justement tout l'historique que des gens comme vous peuvent avoir. Moi, par exemple, j'ai entendu 10 000 fois le thème de Rocky, j'ai entendu 50 000 fois celui du Mandalorian, il m'est jamais venu à l'idée que c'était la même chose, tu vois.
Non, mais en fait, ce qui est embêtant, c'est la musique, comme presque toutes les formes d'art, c'est avant tout un geste qu'on reproduit, qu'on copie au début. Tous les musiciens, tous les instrumentistes ont commencé par reprendre des trucs qui existaient déjà, rejouer, etc.
Ça n'est jamais construit sur du vide, c'est construit sur une base qui était là avant que tu naisses.
C'est de la reproduction tout le temps. La question ensuite, c'est tu peux reproduire et puis tu changes une seule des notes dans la suite d'accords. Tu dis bon au lieu de mettre l'accord en deuxième, je vais le mettre en troisième et puis ça c'est pas un problématique à partir du moment où tu arranges de manière un peu différente, tu colles de manière différente, tu dis tu sais quoi, je vais rajouter peut-être aussi ce petit truc qui vient d'ailleurs.
Ah mais bien sûr.
Et là tu vois, on est dans l'hommage là, quand on est là-dedans. Quand t'as un copier-coller bête, ce qui arrive parfois, là effectivement, je pense qu'on est dans l'ordre du plagiat.
Oui, le copier-coller, c'est un mec qui ferait un film à la Top Gun et qui prendrait un compositeur qui reprendrait les mélodies de Top Gun. Là, ça serait de la copie bête et méchante.
Sauf s'il appelle ça Top Gun Maverick, et du coup ça marche.
Et parfois,
c'est le même gars en fait.
Bah ouais.
Donc ça va, il aura, c'est à lui.
On parlait d'Annie Elfman tout à l'heure, il a repris plein de trucs du cabaret berlinois, par exemple, des années 30. Mais le fait est que il l'a pris pour le mettre sur des films à vocation de comédie fantastique, horrifique, tu vois. Donc tu dis, mais c'est quoi le rapport? Ben justement, le rapport, il est là.
Ouais, et puis il te l'apporte, en fait. C'est ça qui est bien.
Il y avait une énergie décadente, rigolarde et distancée dans le cabaret berlinois qui va vachement nous servir pour dire au public, là je pense à Beetlejuice par exemple, d'emblée, dès le début du film, le public va comprendre sur quel mode
un peu burlesque,
on est, et donc là on n'est pas dans la copie, on est dans j'utilise un truc qui a été fait à son époque pour l'amener sur un terrain qu'il n'a pas conquis,
et qui éventuellement, pour les gens qui vont diguer ce truc là vont leur permettre de trouver les refs et d'élargir leur scope.
Alors aussi mais en plus Elfman, c'est digéré et c'est suffisamment altéré, modifié pour devenir partie intégrante de son univers à lui.
Et assumé surtout, parce que moi je me souviens que à l'époque de la sortie du premier Batman, où effectivement les collectionneurs de musique de film l'accusaient d'avoir pompé Bernard Herrmann, sa réponse c'était oui, évidemment. parce que sauf qu'en plus c'était même pas une musique de film qu'il avait repris, c'était une musique de film version concert, parce que il y avait un film qui s'appelait Voyage au centre de la Terre, donc avec une musique d'Herrmann, et Herrmann l'avait repris ensuite symphonique dans les années 70, et s'était permis de rajouter une petite intro qu'il avait eue entre-temps, quoi. Et c'est effectivement cette intro que Elfman a repris pour préparer son fameux thème de Batman. C'est tout le début du truc qui fait.
Ça fait longtemps que je sais pas. Je me rappelle de Batman 2, enfin de défi, la scène d'ouverture avec le landau dans l'eau. Mais c'est pas, tu le
ça c'est
pas.
Le 2, ça
c'est le 2, hein, ouais. Y a pas
c'est
le même
c'est la naissance du pingouin. Ouais. Et effectivement, donc il reprenait cette suite symphonique de Bernard Herrmann pour Voyage au centre de la Terre. Mais en fait, c'était ingénieux parce que en l'état, ce morceau, il n'avait servi entre guillemets à rien. C'était juste une suite symphonique qui jouait nulle part, puisque on joue pas beaucoup de musique de film comme ça en concert. Et il a réussi à en tirer quelque chose. Et c'est même pas le son thème, c'est l'ouverture de son thème. Donc
c'est bien. Enfin,
moi, je prends ça comme un hommage, quoi.
Bien sûr. Bah, enfin, même sans parler de musique, quand Gainsbourg est reprendu de Dvorak sur Initials BB, bah, ça marche de fou, en fait.
Et, tout à fait. Et d'ailleurs, à propos de Gainsbourg,
c'est une partie du motif.
À propos de Gainsbourg, sa chanson, comment ça s'appelle, c'est My Lady.
Lady Heroine.
Oui, c'est ça, ouais. Je crois. J'ai découvert que c'était un morceau dit classique qui s'appelle Sur un marché persan, à l'origine. Et ce morceau, en fait, c'était des bibliothèques musicales qui servaient dans les premières heures du cinéma.
Okay.
Ces fameux trucs dans lesquels les pianistes allaient jouer. Et donc, dès que t'avais un truc vaguement oriental à l'image,
ils jouaient
ce morceau-là que Gainsbourg a repris. Donc, on a bouclé la boucle.
Rafik, Olivier, Daz.
Oui.
Je crois que ça fait plus de deux heures qu'on parle.
Mais c'était très bien.
L'idée derrière cette émission était ambitieuse. Je sais pas si on y est complètement arrivé, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses quand même.
Ouais, franchement.
Je pense qu'on a fait un bon prologue et qu'on va développer un peu dans les 12 prochains
mais
épisodes.
Mais non, mais ça, il faut aller écouter Total Tracks pour ça. Si on veut continuer à poursuivre. Mais
bien sûr. Combien d'épisodes de Total Tracks on en a?
On arrive presque à la centaine, là, je pense.
Oh,
on aura un numéro 100 aux alentours de juin.
Donc 70 sur Goldsmith.
Ouais. Bah, ce qui est justifié, a priori, parce que,
En plus, vous l'avez pas encore fait.
On l'a pas encore fait, Godzilla. Ah,
on
n'ose pas le faire.
Voilà. Il va avoir 200 épisodes d'un coup, s'il le fait.
Il doit y avoir du Elfman, j'imagine.
Il y a Elfman Burton. Uniquement la collaboration Elfman Burton.
Sur combien d'épisodes?
Sur 5 épisodes.
Ah, et 2 heures à chaque fois?
Et on va refaire Elfman sans Burton après. Ça sera encore autant.
Elfman Rises, Elfman Returns. Très bien. Très bien.
En tout cas, j'espère, voilà, que nos éditeurs, nos spectateurs, auront maintenant une idée un peu plus claire de, bah, de comment ça s'est passé, la musique au cinéma, quelles ont été les grandes tendances, les grandes évolutions, où on en est aujourd'hui. T'as appris des trucs,
là? Moi, j'ai appris plein de trucs, là. Écoute, je suis ravi, moi. Quand je pars de cette émission, je suis moins con que quand je suis arrivé, donc c'est génial.
Écoute, j'espère que c'est pareil pour nos spectateurs.
Je suis vraiment notre auditeur type, tu vois. Donc, si moi j'ai compris et j'ai kiffé, les gens vont kiffer, c'est normal. C'est vrai.
Oui, mais tu sais, parfois ça se passe pas. Quand tu vis le truc en discutant directement, c'est pas pareil qu'après la caméra.
Ah,
on se rend pas compte, c'est chiant, par exemple, à des moments. Tu
non,
vois.
C'est jamais non chiant.
C'est jamais chiant.
En tout cas, merci de nous avoir reçus.
Merci d'avoir fait un grand plaisir.
À la musique de film, parce que finalement, on lui laisse jamais assez de place. On s'en rend compte, en tout cas, nous, on le voit régulièrement. Alors qu'en fait, tout le monde aime la musique de film.
Bien sûr.
Oui. Pas toutes les musiques, mais certaines.
Bien sûr.
Donc c'est beaucoup plus grand public que ce qu'on veut bien en dire habituellement.
Et moi, je vais même faire un mea culpa, parce que il y a à peu près 20 ans, j'ai commencé ma vie professionnelle et j'avais un collègue qui écoutait que de la musique de film et je me foutais de sa gueule en disant mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'écoutent que de la musique de film et quand moi aussi j'ai eu 40 ans j'ai changé d'avis. Donc c'est ça, pardon Pascal, t'avais raison depuis le départ.
C'est le musicien John Zorn avait sorti ça il y a très longtemps, dans les années 90, hein. Il avait dit si la musique doit survivre un jour, elle survivra grâce à la musique de film.
Eh ben j'y crois, mais c'est parce que je suis vieux maintenant.
Après c'est oui bon
non, j'allais
re-rentrer dans de la polémique, dans du débat, mais
on le fera après autour du
bière. C'est plus facile aussi pour une musique de marquer, d'être intemporelle lorsqu'elle est accompagnée d'images, même de rien. Et que c'est difficile de, on le voit d'ailleurs, il y a tellement de musiciens qui aujourd'hui disent mais moi je m'inspire beaucoup du cinéma, je fais une musique cinématographique, j'ai envie de faire un clip pour accompagner ça. Enfin, tu vois, l'image mine de rien elle porte aussi beaucoup la musique, mais l'inverse est valable aussi.
Bah, surtout,
on est d'accord, hein. Mais c'est difficile de, en tout cas tu vois, de rivaliser sans l'image, d'autant plus dans notre société actuelle, tu vois.
Moi je te le dis, tu me montres un extrait de film d'un film que j'ai kiffé, genre au hasard Predator ou Piège de cristal ou machin, s'il n'y a pas la musique, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment indissociable.
C'est de très bons exemples. Je te soutiens sur tes exemples.
Et ben voilà.
Tu préfères Predator à Terminator pour la BO, par exemple?
Mais je préfère McTiernan à Cameron.
Non,
sur Aliens, parce que bon.
Pour le film, à la limite, je peux l'entendre, quoique, sur le Terminator 2, mais
le
thème de Terminator est puissant, mec.
Oui, il est littéralement puissant, c'est limite des bruits de marteau et de presse hydraulique, donc oui, c'est puissant, mais
en même temps, le compositeur de Terminator a pas eu la carrière du compositeur de Predator.
C'était qui d'ailleurs?
Comment il s'appelle
Brad Fiddle,
oui.
Ah ouais.
C'est quand même bien la BO de Terminator, non
Oui, non, elle marche. Hein. Oui, mais c'est, voilà, il a essentiellement fait ça.
Et Alan Silvestri, outre Predator, donc Retour à le futur, qui est quand même.
Voilà, ah, pardon, excusez-nous.
La musique de Forrest Gump est très
D'accord,
très
c'est bon, allez, pardon. Je préfère Predator.
On a aussi fait 3 épisodes sur Alan Silvestri. Donc, voilà, on n'est pas là pour faire non plus la promo de.
Juste dernière question.
Cet épisode est interminable.
Je sais, mais. On parle de musique science-fiction, Alien.
Le premier,
Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, bien sûr.
D'accord, mais les autres, non.
Non. Le deuxième, c'est James Horner.
Ok. Mais c'est marrant parce que j'ai pas le thème.
Il n'y a pas de thème dans.
C'est
Alien.
Ça, en fait.
Si, j'ai le thème.
J'ai pas comme sur Terminator ou sur La Guerre des Étoiles ou mais sur.
Il y a un thème, on en a fait une version disco même.
Hein?
Je déconne pas.
Il y a une version disco d'Alien.
Cherche
ouais.
Alien Disco sur YouTube, tu vas chercher ça.
Vous savez ce que je vous propose? Finalement, on termine toujours cette émission avec des recommandations.
C'est vrai.
En vrai, les recommandations, c'est tout ce qu'on a écouté déjà là.
Ouais,
c'est d'aller écouter Total Tracks
on
aussi.
Beaucoup, ouais.
On a déjà écouté plein de trucs, mais on termine sur le Alien, tu
Alien
disais.
Disco. Alien Disco. Alien Disco. Voilà. Olivier, qu'est-ce que tu nous fais?
Ça sera notre recommandation.
J'ai trollé l'émission.
Allez, c'est la reco d'Olivier Desbrosses. Il est seul responsable de cette recommandation.
Non, c'est long en plus, je crois.
Excuse-nous, Jerry. Hein. On ne voulait pas ça.
Allez, j'avance un petit peu. Hein.
Ils descendent sur la planète
alien,
t'as le
teint. Ah ouais, mais pas en version disco, on est d'accord.
Non, mais au départ, ça devait être le générique de début, mais ils ont changé.
Le
ils ont
truc
mis
avec
un
la musique
truc.
D'alien, c'est qu'il y a beaucoup de musique concrète en fait dans le film. Il y a beaucoup d'instruments bizarres, etc. Il y a peu de mélodies qui ressortent, si ce n'est justement dans cette scène où ils descendent en vaisseau.
Voilà, on est après dans du Marauder.
Et sur la musique d'Aliens, le retour, c'est très inspiré de Shostakovich, les musiques guerrières qu'il a faites pour Staline, pour soutenir les populations là. Donc c'est vraiment des.
Je m'en rappelle pas, alors que le film, je le connais par cœur. C'est fou.
Aliens, le retour.
Ouais. C'est mon préféré.
Tu te rappelles pas de la musique?
Et je me rappelle pas de la musique.
Elle est
Il y a un morceau d'Aliens le retour qui est recordman d'utilisation dans les bandes annonces.
Fin des années 90.
Un morceau qui s'appelle Countdown. Compte à rebours et qui a été utilisé sur 150 000 bandes annonces.
Mais c'est fou ça, parce que je connais les dialogues par cœur et tout, mais vraiment le.
Il y a d'ailleurs un site qui recense les musiques de bandes annonces.
Ouais.
Et les musiques de films utilisées dans des bandes annonces d'autres films. et t'as des trucs de ouf, quoi.
Mais lui, le countdown de l'Alien, c'est un retour.
C'est un petit peu plus loin. Ouais, voilà.
Voilà, c'est là.
150 bandes annonces, sérieusement.
En fait, je la mettais dans ma Predator list, tu vois, parce que c'est un peu le même.
Le truc, surtout vers la fin du morceau, ça fait tin 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 tin. T'as une note qui se répète comme ça, vraiment en mode
très haché.
Cet été, revenez au cinéma.
Ouais, bon, ça marche.
Ils sont intarissables.
Oui.
Voilà, c'est les vrais passionnés.
Exactement.
On ferme boutique. Arrêtez tout. Éteignez les lumières, les gars. Éteignez tout. Non, merci à nouveau encore.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Surtout graphique, disons-le. On essayait de faire cette émission depuis très longtemps.
C'est vrai que j'ai un peu tardé à.
Oui.
À l'image.
Disons qu'on a mis quasiment 2 ans à organiser ça.
C'est pour ça que ça dure 2 ans.
C'est pour ça que ça dure longtemps. Mais on y est arrivé. Je suis très content.
Merci.
Merci aussi Olivier Daz. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
C'était vraiment un plaisir.
Écoutez, on va faire une série Total Tracks Cross DLT. On va trouver un moyen de faire ça. Merci évidemment la bouclette.
Merci
Sam Flavien. Merci aussi Thoman, bien entendu,
bien
qui permet à cette émission de continuer.
SO Thoman.
Merci à vous aussi de nous suivre. Et puis on se retrouve dans 15 jours. On a déjà le sujet. Dans 15 jours, on va s'intéresser au R&B français.
Oh putain.
Daz, on va parler de R&B français. Ça
le
va être passionnant.
Le grand écart est total. Non, mais
le grand écart est
c'est
total.
Clair.
Mais parce que c'est un sujet rarement abordé.
Ah oui.
On a trouvé une experte qui vient de sortir un bouquin dédié au sujet. C'est le premier bouquin en français qui parle du R&B français.
J'ai
et qui l'analyse. Ça va être très très cool.
C'est super
dans 15 jours.
Ciao.
Ciao.